qui tombe, les soirées de Ligue 1, les résultats, il y a le ski, il y a la Formule 1 bientôt qui va arriver.
Ouais.
C'est sûr.
Ouais, on n'a pas parlé de l'actualité des sports mécaniques. Alors, évidemment, à tous ceux qui n'ont pas écouté il y a 10 minutes, j'ai expliqué, je réexplique pourquoi. La raison est toute simple, parce que dans quelques secondes, on va en parler. Donc, je ne vais pas paraphraser ce que Mathieu dira mieux que moi dans quelques instants. Xavier, je te remercie de ta participation à ce Flash Sport. Je te souhaite une bonne soirée. Je te retrouve, pourquoi pas demain. Je ne sais, demain, je ne suis pas sûr d'être là. Mais en tout cas, on te retrouve demain, nous, sur RTL.
Oui, il n'y a pas de problème. C'était un plaisir, comme d'habitude. Et puis, ouais, bon, à la prochaine fois avec toi. Puis demain, normalement, je pense que ça sera avec Lusa ou Stan. Donc, enfin, demain, quoi.
Tu les embrasseras pour moi. Bonne soirée.
En tout cas, bonne émission à vous, en tout cas. Bonne soirée.
Ah ben, on va se régaler. Il y a de l'invité ce soir, hein, chers amis auditeurs. N'hésitez évidemment pas à réagir. Le Flashport est terminé. Il est 21h02. Puisque maintenant, vous le savez, nous sommes jeudi soir. Nous sommes le 1er mars. Et on va fêter mars. En mars, on va faire ce qu'il nous plaît. On va pour une fois contredire les adages qui sont pourris et qui sont d'un autre temps. On va faire ce qui nous plaît ce soir. Il est 21h02. Vous écoutez RTS. C'est le Motor Show. À demain, Xavier.
À demain, bonne soirée.
Et merci.
Motors Show, l'actu des sports mécaniques, tous les jeudis à 21h sur RTS avec Mathieu et son équipe.
Jeudi 1er mai, il est 21h03, vous retrouvez Mathieu comme il s'est si joliment auto-proclamé et auto-présenté. Mais il n'est pas tout seul ce soir, car il est entouré d'invités, de consultants exceptionnels, et d'invités aussi tout aussi exceptionnels qu'il va vous présenter dans quelques instants. N'hésitez évidemment pas à participer et à débattre avec nous durant l'émission sur la page Facebook, comme ça je le dis maintenant, comme ça je ne le dirai pas plus tard. Vous pouvez participer sur la page Facebook ou sur le chat de la page d'accueil d'RTS, rtsradio.fr. Je pense avoir été complet avant de lancer l'indétrônable, l'inimitable soirée de vos jeudis soirs. Il s'est présenté comme je vous l'ai dit. Tout à l'heure, il se prénomme Mathieu. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ?
Bonsoir mon ami Chris. Alors il me semble que tu as dit 1er mai.
Je suis ça fait du travail.
Je me suis dit le 1er. Oui. Ah oui, ben c'est parce qu'en fait, je vais faire une petite confidence et les auditeurs savent pourquoi j'ai fait ce petit lapsus. Il y a quelques secondes, j'ai fait un néologisme avec mon ami Xavier dans le cadre du Flashport et on a dit en mars, on va changer l'adage, on va dire en mars, on fait ce qu'il nous plaît. Évidemment, du coup, dans mon cerveau, il fallait que je retienne ce mot du mois de mai. Pardon, autant pour moi.
Je vais accepter cette excuse.
Et qui est tout à fait valable.
Je te salue, mon ami Chris, mon ami belge. Très heureux de te retrouver. C'est la 56e fois que je te retrouve un jeudi soir. Ça fait beaucoup. Mon ami Chris, c'est très plaisir de te retrouver pour une émission exceptionnelle pour l'instant. Tout le monde se doute de quoi je parle. Personne ne le sait. Mais ce soir, on va vivre deux heures d'émotion, je pense, avec un rythme intense. On va se régaler. Chris, bonsoir, est-ce que tout va bien du côté de Mons ?
Tout va très bien. En fait, moi, quand j'ai sabré le champagne, le réveillon du 1er janvier, je me suis dit, j'attends avec impatience le 1er mars pour vivre cette émission exceptionnelle du Motor Show. Et donc, je suis très très heureux que tu m'aies une nouvelle fois convié à la fête, même s'il est vrai que là, on commence à ne plus les compter, les rendez-vous, là.
Et justement, on aura des invités qui ont, eux, sabré le champagne sur les podiums.
Oh !
Et d'une fort belle manière, hein. Bien sûr, on s'en doute pas forcément. Hein. Le talent est là. Et le talent aussi est représenté par Jérôme. Bonsoir à toi.
Bonsoir Mathieu, bonsoir Chris, bonsoir Alex, bonsoir à Olivier, bonsoir aux Oz, Olivier, s'il vous plaît. Donc moi, Chris, pour répondre, mes parents, moi, quand je suis né, hein, le 1er novembre 91, on dit... Le 1er mars 2012, mon fils aura un grand rendez-vous avec l'histoire et ils ont sabré le champagne. Donc voilà, je tiens à le dire, je suis là, je suis présent ce soir, bonjour à tous.
C'est magnifique, Jérôme, vraiment.
C'est beau la tolérance, hein, c'est joli.
Bonne improvisation,
c'est du théâtre.
Voilà, ah bah tiens, tu en as fait au lycée, hein, tu veux pas le nier. C'est dans ton CV ça. Hein.
Ah bah oui, bien sûr.
Et à nos côtés, notre partenaire PGAT 34. Un tout nouveau site en cours de rodage, je le pense, hein, vous irez le voir, il est très joli, il s'annonce pas mal, bon, il y a un petit souci sur le chat, la taille du chat est assez difforme, mais bon, ça se réglera ça se réglera bientôt. Et je salue notre ami Olivier. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es fatigué? Mais ce soir, on va te redonner le moral.
Bonsoir, messieurs. Ouais. Content d'être parmi vous.
Non, ah.
Ah là là.
Et voilà, c'est la première erreur parce qu'il y a deux Olivier.
Ah, le premier incident.
Alors,
le premier
Olivier
incident.
Olivier P. Ah,
Olivier de PVAT 34. Tout d'abord, je m'excuse pour l'invité, mais on salue d'abord nos amis consultants. Bonsoir à toi, Olivier P.
Allez, bonsoir à tous, un peu fatigué, mais on va essayer de faire une très bonne émission ce soir. Et à noter, utiliser le site en plein rodage, mais ça se trouve, c'est fini, peut-être.
Là, pourquoi?
Parce qu'on n'est plus que 3 administrateurs, donc du coup, on va peut-être abandonner ce
site. Oh non,
voilà, c'est malheureux. C'est malheureux. Bon, on connaît les raisons, on a déjà parlé plusieurs fois. C'est assez douloureux à vivre. Je salue maintenant notre partenaire, la Formule 1 en continu sur Facebook, une page qui ne cesse d'amener des fans du monde entier. Alex, bonsoir à toi. C'est aussi le spécialiste endurance de l'émission, c'est pour ça qu'il est là. Bonsoir, Alex.
Bonsoir tout le monde. Ravi d'être parmi vous en ce jour divin pour accueillir nos deux grands invités. Bonsoir tout le monde, bonsoir les fans.
Et j'informe mes chers amis auditeurs que Tristan Vautier, c'est le deuxième invité qui viendra vers 21h30 si tout va bien. Hein, il a eu des soucis à l'aéroport, mais il devrait être là normalement. Il sera là pour nous parler de sa vie américaine. Donc est-ce qu'elle est si belle que ça? Hein, c'est tout ce qu'il va, nous en parler, ça va être très sympa. Mais on commence l'émission avec un autre invité exceptionnel, car c'est une émission exceptionnelle, je l'ai dit. Olivier Lombard, pilote d'endurance. Tout simplement, hein, pour faire court, il a gagné les 24 heures du Mans en LMP2. C'est un peu là, on voit la deuxième division, hein, si pour résumer.
C'est pas rien quand même.
C'est un très très beau, une très belle ligne sur son palmarès. On salue comme il se doit, avec toute la joie et le bonheur que l'on a. Bonsoir Olivier Lombard.
Ah, c'est à moi cette
fois. Voilà.
Bonsoir messieurs.
Est-ce que tout va bien alors?
Bah très très bien là, impeccable.
Avant le début de la saison, hein, c'est bientôt. Est-ce que pour commencer cette émission, est-ce que tu t'es préparé cet hiver? Comment ça s'est passé?
Ben oui, un hiver assez long. C'est toujours long les intersaisons comme ça. Mais bon, au moins ça nous laisse le temps pour bien nous préparer, que ce soit physiquement ou mentalement. Et pour moi, ma préparation là, elle est en train de se finir vu que la première course arrive déjà dans 2 semaines. Donc tout s'annonce très très bien. J'ai pris contact avec l'équipe il y a 3-4 semaines, donc une super cohésion. Donc franchement, ça va être vraiment de bon augure pour le début de la saison là.
Et un premier faux départ hein, en 2012 ce soir.
Oui, on est très impatients de suivre ça cette année.
Ouais, elle est tombée à l'eau complètement, hein, Mathieu, celle-là. Je sais pas si t'as remarqué.
Oui.
Non, mais ma blague est tombée complètement à l'eau là. Il y a un silence après, il y a un manque de solidarité dans cette équipe.
On n'a pas dû la comprendre.
Ah non, j'ai dit, il y a eu le premier faux départ d'Olivier, c'était ce soir. Ah, ouais. Mais voilà. Jérôme, évidemment. La solidarité.
Oui, bref, donc Mathieu. Je disais, donc, ce soir dans le programme, nos deux invités, un à l'honneur, bien évidemment. Et ensuite, si on a le temps. Bon, ça va être compliqué, mais on peut le faire, un peu de F1 et de GP2. Cette semaine, les tests GP2 à Jerez et Dams et David et Valsecchi ont très bien entamé la saison 2012 hein, pour remplacer Romain Grosjean qui est passé en Formule 1, vous le savez très bien. Bon, beaucoup d'infos. Et en F1, donc, la première journée des derniers essais à Barcelone et quelques infos en plus. Est-ce que vous êtes tous prêts, messieurs?
Ready.
Alors, bah, c'est parti, on va retrouver, donc... Il est déjà là, notre ami Olivier Lombard, donc on va passer une heure avec lui, il nous quittera à 22h. Je pense qu'on a le temps de poser beaucoup de questions. Alors sur le chat, n'hésitez pas à poser-en, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et sur la page Facebook aussi, hein, on va se régaler ce soir. Messieurs, allez, j'ai envie de faire l'honneur à Alex. Première question pour Alex, notre spécialiste endurance, pour démarrer cette émission.
La question que se pose tout le monde, qu'est-ce que ça fait de gagner le Mans, les 24 heures du Mans, en catégorie LMP2?
On va commencer voilà sur cette carrière riche en émotions, en endurance d'abord, c'est parti. Alors.
Gagner le Mans, surtout à 20 ans, c'est tellement grandiose que c'est dur à décrire, surtout que moi ça s'est fait assez improbablement, je suis arrivé au Mans vraiment à la dernière minute. et d'avoir ce résultat, c'était tout simplement magique. J'ai vécu vraiment une course extraordinaire avec des coéquipiers super. Et au final, c'est un souvenir qui reste gravé dans la mémoire. Surtout que moi, j'ai eu la chance de faire l'arrivée. Donc le dernier tour avec tous les commissaires qui brandissent les drapeaux et quand on passe la ligne d'arrivée, c'est magique, c'est vraiment magique.
C'est donc le fait d'arbre de ta carrière, hein, vainqueur des 24 heures du Mans LMP2 avec le Greaves Motorsports sur une monoplace Zitec Nissan. Les deux coéquipiers, Karim Audjet et Tom Kimber-Smith, c'est sûr. Et alors de l'intérieur, comment vit-on une longueur de 24 heures? Est-ce que tu peux un peu nous en parler aussi, cette vie hein, au sein, dans le corps d'un pilote d'endurance, sur 24 heures, comment vit-on cette aventure-là, aussi bien humainement, physiquement que psychologiquement?
Ben, je pense qu'avant tout, c'est vraiment une aventure humaine, parce qu'on partage, quand même, parce qu'on va dire que les 24 heures, c'est quand même une semaine, c'est vraiment une semaine complète, c'est pas uniquement la course de 24 heures, ça se déroule sur une semaine complète, et il y a un énorme travail à fournir toute cette semaine. Bon, si on parle vraiment en particulier de la course, il faut une cohésion très forte entre les coéquipiers, entre l'équipe, pour qu'on se comprenne très vite. S'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, il faut vraiment qu'on sache quoi faire. Un élément très important, ça reste bien sûr de prendre soin de soi pendant ces 24 heures pour pouvoir être au top dès qu'on est dans la voiture. Par exemple, pour mon cas, c'était de vraiment faire attention à mon alimentation, bien caler mes horaires justement pour boire, pour manger, pour toujours être au top mentalement et physiquement. Donc pour ça, bien sûr, on avait quand même une aide. Par exemple, on avait un physio qui pouvait nous aider, qui nous programmait des heures de sommeil, etc. Donc c'est des éléments vraiment importants pour pouvoir faire une bonne course. Après, bien sûr, une fois qu'on est dans la voiture, donc là, c'est toute une gestion du stress, du trafic, faire ce que l'équipe demande au niveau des objectifs de consommation d'essence, par exemple, ou si on a des temps, des targets à faire. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte sur une course de 24 heures comme Le Mans. Et au final, si tous ces éléments sont réunis, ben, ça peut faire un super résultat comme on l'a fait.
Alors sur le chat, j'ai mis le lien du site de Olivier Lombard, vous pourrez le feuilleter en même temps que nous. C'est
très bien fait d'ailleurs.
Voilà, je sais que Chris, tu allais le faire, je me dis, bon, je prends les avant. Ouais. Chris, tu es doué pour la com, hein, on le sait très bien. Alors, cette saison 2011 qui fut riche en émotions, tout d'abord sur ton palmarès, on peut y voir les principaux faits d'armes de cette année. Vainqueur au 6h d'Imola avec le Gris Motorsports, vainqueur du 6h de Silverstone, et deuxième au 6h d'Estoril.
Ça, c'était en Le Mans Series.
Oui, voilà. Et champion et vice-champion 2011 de Le Mans Series en LMP2 avec le Gris Motorsport qui est champion constructeur. Alors, est-ce que ce fut une saison parfaite, pratiquement hein? Est-ce que tu as des regrets sur cette année?
Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait les deux premières courses avec cette équipe. Donc c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je suis arrivé justement seulement au Mans. C'est que en début d'année je devais partir sur un projet avec la Hope Racing sur le projet donc hybride. Et malheureusement pour des raisons un petit peu de retard, j'ai dû abandonner le projet. Et ce qui fait qu'en début d'année, je me suis retrouvé un petit peu sans rien au final. Et suite à des belles performances aux quelques courses de Formule 1 Le Mans que j'ai fait en début d'année, j'ai été accueilli par Greaves Motorsport pour pouvoir faire donc la fin de saison. Au niveau des regrets, voilà, donc c'est ces deux courses-là. Mais sinon, pour moi, en tant que jeune pilote, ça a été une saison, enfin, un milieu de saison extraordinaire et super pour ma carrière. Parce que c'est vrai que j'étais pas vraiment connu avant ces quatre courses. Et c'est au final ces résultats qui m'ont vraiment permis de me lancer et de me faire un petit nom dans le l'endurance.
Le petit nom pour l'instant deviendrait grand. Messieurs, c'était une petite question sur cette période de l'an dernier de l'endurance.
J'ai des questions sur le chat si tu veux, mon Mathieu.
Je t'en prie.
Eh bien, tout d'abord, une question par exemple de Michel Motor Show, notre ami Michel, qui nous demande comment as-tu vécu en fait la dernière, si tu roulais pendant le crash des Audi, hein, surtout celui de Alan McNish, et comment tu as vécu de l'intérieur ces deux crashs?
Alors, on va dire que j'avais très très froid. Parce que alors moi j'étais dans le j'étais au volant au moment du deuxième crash avec non, je sais plus si c'était Rockefeller.
Ouais, Rockefeller.
Si, Rockefeller. Ouais, Rockefeller. Et à ce moment-là, donc on était en derrière safety car, donc qui a duré je crois à peu près 2 heures. Alors moi j'ai fait 1 heure et mon coéquipier a fait 1 autre heure. Et 1 heure derrière safety car, c'est très très dur, c'est vraiment éprouvant. Bien qu'il y avait pas un gros rythme, mais il faisait tellement froid dehors et au moment où on passait dans la forêt, j'avais les épaules gelées et j'étais vraiment frigorifié. Et souvent, ce qui est très piégeux justement quand on est derrière un safety car longtemps comme ça, c'est que dès que, enfin, on peut faire une faute à n'importe quel moment si on se déconcentre. Et par exemple, c'est ce qui est arrivé à David Hallyday au petit matin derrière un safety car. Il s'est déconcentré, puis il a dû accélérer trop fort et boum dans le mur. Et ça, c'est des erreurs qui pardonnent pas, qui sont très faciles à faire.
Et alors, est-ce que, oui, c'est vrai, j'ai une question aussi sur le trafic en endurance, encore plus au 24 heures du Mans. Comment on gère un peu le trafic? Alors, on rappelle, il y a LMP1, LMP2, les prototypes et les GT. Est-ce que c'est compliqué vraiment à gérer ces problèmes de trafic?
Ouais, je pense que c'est vraiment une tâche quand même assez ardue parce que, en plus, nous, on est le milieu de catégorie. Donc, on a les LMP1 qui nous doublent et on doit doubler, nous, les GT. Donc, on doit faire attention à l'avant et à l'arrière. Donc c'est un élément pareil, il faut être vraiment très vigilant. Alors ça s'apprend. Moi j'ai eu des très bons conseils dès le début de toujours bien regarder dans ses rétroviseurs. Ça c'est la chose la plus importante. Donc pour les LMP1 qui arrivent derrière. Et après pour les GT, alors le problème avec les GT c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs aussi. Et ils font souvent pas très attention à regarder dans les rétroviseurs pour voir si on arrive ou pas. Et donc c'est pour ça, c'est à nous de penser pour eux, de savoir, de prévoir l'action qu'ils vont faire. Et ça peut éviter justement de faire une course bêtement parce qu'on s'est crashé dans une Ferrari ou une Porsche. Donc c'est important.
Ouais, pour Alan McNish aussi, hein, le crash de Ferrari d'Anthony Beltoise.
Exactement.
Ouais, Olivier, on te sent extrêmement minutieux dans ta préparation et c'est tout à fait évidemment normal. C'est ce qui te permet de réussir aujourd'hui. Au niveau de l'approche mentale, comment est-ce qu'on gère cela, notamment la pression supplémentaire, le fait, comme tu l'as dit, à 20 ans de gagner le Mans, même si certains diront que c'est pas dans la catégorie Van, c'est quand même un exploit rarissime à 20 ans. Comment est-ce que tu gères cette pression-là? Est-ce que tu en fais abstraction aisément ou est-ce que c'est quand même aussi un paramètre à gérer, un paramètre supplémentaire à gérer?
Non, la pression elle est toujours là, il y en a toujours beaucoup, mais je dirais que moi je me dévoile un petit peu quand il y a de la pression, et j'aime bien qu'il y ait toujours justement cette petite pression qui nous réveille toujours et qui fait qu'il y a toujours un challenge. Après maintenant, moi pour gérer vraiment la grosse pression, je me dis que de toute façon je fais mon job, je me concentre uniquement sur mon job, sur mon week-end, sur ma course, sur ce que je dois faire, et puis ça passe tout seul.
Et merci Olivier. Et la seconde question que j'avais, parce que tu parlais tout à l'heure de nutrition, évidemment on sait que la préparation physique, on parle du mental, mais la préparation physique c'est extrêmement indispensable, outre évidemment la semaine du Mans. Je dirais tout au long de l'année, je suppose que tu es suivi par un nutritionniste, par quelqu'un qui fait très très attention à ta condition physique. Si ce n'était pas le cas, en tout cas je suppose que tu es très très vigilant. Étant donné ton relatif jeune âge, comment est-ce que tu as pris conscience, à quel âge tu as pris conscience de l'importance d'une bonne préparation physique?
Disons que je suis un peu un drogué du sport, donc j'aime vraiment beaucoup le sport. Et par exemple, si j'en fais pas une journée, je vais me sentir mal après. Donc c'est venu naturellement et j'aime beaucoup le sport et faire du sport, il faut absolument que j'en fasse. Donc au final, après, ça a été seulement d'améliorer mes performances qui étaient déjà un petit peu là, vu que j'en faisais beaucoup, et de plus cibler vers la course d'endurance. Mais c'est par exemple, pour vous dire un exemple, là, je m'entraîne tous les jours, donc je fais à peu près 3 heures d'entraînement tous les jours, ce qui est quand même une charge de travail assez importante sur une semaine. Et c'est un élément important parce que c'est ce qui peut faire la différence entre deux pilotes, notamment, surtout en endurance, notamment celui qui va être au bout de, par exemple, un relais qui va être complètement crevé ou asphyxié et qui aura plus les idées claires ni le physique pour pouvoir continuer. Alors que celui qui sera bien préparé, il pourra avoir les idées claires, donner les bonnes informations aux ingénieurs et surtout, surtout pas faire de faute en course.
Ouais, 3 heures de préparation par jour, d'où l'importance, on en revient évidemment, de la nutrition, tout ça se tient un peu dans un cercle. Mathieu.
Oui, et c'est vrai justement que l'endurance, c'est vraiment différent de la monoplace. On va en parler après, tu as fait de la formule BMW, qu'est-ce qui t'a lancé dans ta carrière. Effectivement, la différence est quand même énorme au niveau de la préparation. L'endurance, c'est vraiment différent, ça n'a rien à voir. Et même en termes de cohésion avec l'équipe, c'est complètement différent. Non
je dirais que bon, pour ce qui est de la cohésion avec les mécaniciens, ça reste toujours pareil. Il faut toujours être vraiment, vraiment très bien avec ces mécaniciens, vu que c'est eux qui s'occupent de la voiture. C'est quand même les personnes avec qui on est en premier en contact. Après, ce qui change énormément au niveau de l'endurance, ça reste l'esprit. Oui, par exemple, entre nos coéquipiers, parce que dans une course, dans les courses de monoplace, de sprint, on est vraiment ennemis. On est amis, mais on reste concurrents sur la piste. Et alors qu'en endurance, on essaie plutôt de se tirer les uns avec les autres pour faire progresser celui qui est moins vite ou pour lui donner des conseils. Moi, c'est ce qui est arrivé la fin de l'année dernière avec mes deux coéquipiers qui m'ont vraiment tiré vers le haut. Et c'est vrai qu'en monoplace, c'est spécial. C'est spécial. C'est vraiment chacun pour soi. On travaille pour soi. Alors ça a aussi beaucoup son charme. Je sais que moi, j'ai toujours une attirance pour la monoplace. Parce que c'est vrai que ça, entre guillemets, ça fait toujours du bien de pouvoir bosser vraiment uniquement pour soi et d'essayer d'être le meilleur, le plus performant possible.
Est-ce que une dernière question sur cette année 2011 avec le Gries Motorsport, ce fut véritablement pour l'instant peut-être la meilleure de ta carrière?
Oui, là ça restera une année, j'espère pas la dernière, mais ça a été une année extraordinaire, exceptionnelle. Et de toute façon, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour pouvoir lancer ma carrière. Quoi. Donc maintenant, on va voir cette année, et j'espère poursuivre dans cet effort.
Et alors justement, cette année riche en émotions, est-ce qu'elle t'a ouvert des portes à des négociations pour la LMP1, ou c'est toi qui as voulu rester dans cette catégorie-là pour apprendre encore? Car bon, on va rappeler, hein, tu as signé chez Signatec Nissan avec les deux Français Franck Mailleux et Jordan Tresson. Alors, est-ce que tu as quand même eu des négociations en LMP1?
Alors, oui, j'ai eu quelques touches en LMP1 avec des très bonnes équipes. Mais par contre, après, c'était plus ou moins stratégique. Donc, j'en ai discuté avec mon père. En fait, c'est avec lui que je gère un petit peu ma carrière. Et on a décidé d'un point stratégique de continuer en LMP2, surtout que j'avais les portes ouvertes chez un constructeur, qui est Nissan. Donc une fois qu'on peut y entrer, il faut vraiment essayer d'y rester. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester en LMP2 cette année.
Jérôme, tu voulais réagir?
Oui, sur le chat, puisqu'on est venu, on en vient parler LMP1. Question qui revient d'un auditeur, Erwan. Que penses-tu cette saison du départ de Peugeot, de l'endurance? Qu'est-ce que ça t'inspire?
Bah, je pense que c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est un peu du gâchis parce que ils ont utilisé comme prétexte que c'était au niveau budget, ils ne pouvaient pas suivre budgétairement. Mais si on réfléchit bien, tout le budget pour le développement de la voiture, de l'équipe, etc., était déjà dépensé. Donc au final, c'est qu'ils aient continué ou non le projet LMP1 en championnat du monde, ça n'aurait pas changé grand-chose au niveau de leur budget. Et en plus, je trouve que c'est limite correct par rapport à toute l'équipe qui a bossé énormément tout l'hiver pour amener justement ces voitures au plus haut niveau dès la première course.
C'est vrai que maintenant on aura donc un duel Audi-Toyota.
Parce que déjà gagné d'avance, étant donné que Audi a une certaine expérience par rapport à Toyota, puisqu'elle a arrêté dans les années 2000, alors que Audi, elle, continue depuis 10 ans et puis bien avant. Donc elle a gagné pas mal de fois Le Mans. Donc c'est vrai que là, cette saison, ça va être. Il y aura un peu plus d'action, je pense, en LMP2 qu'en LMP1. Bon, après, on aura peut-être des petites surprises avec. Pescarolo, mais bon, je pense que Audi sera largement au-dessus du lot.
Je sais pas, je suis pas sûr, parce que généralement, quand un gros constructeur comme ça arrive, ils se sentent généralement quand même prêts, ils font tout pour se battre devant. Donc, je pense qu'il vaut mieux attendre de voir ce que ça va, comment ça va se passer, mais je mettrai pas ma main à couper qu'Audi Audi sera tout le temps devant.
Olivier, tu nous parlais de ta relation évidemment avec ton père qui t'a aidé, qui est un peu ton mentor. À quel point elle était indispensable dans ta réussite actuelle?
Mais je dirais qu'elle est totalement indispensable parce que c'est lui, en fait, pour vous expliquer, mon père était moniteur d'école, il a aussi fait Le Mans plusieurs fois, et c'est quelqu'un de très rigoureux dans sa manière d'approcher les choses. Et donc il m'a un peu transmis cette rigueur et cette façon de faire, et moi ça m'a permis de toujours progresser de la bonne manière. Il m'a appris les bases du pilotage correctement. Et même encore aujourd'hui, il me donne beaucoup de conseils, vu que c'est un pilote d'endurance, donc c'est des précieux conseils. Et je suis vraiment content qu'il soit à mes côtés aujourd'hui encore sur les courses.
Alors maintenant, on va passer à 2012, l'année de la confirmation pour toi. Quels sont les objectifs de l'équipe et de toi personnellement cette année?
Alors cette année, les objectifs de l'équipe, c'est évidemment de faire le mieux qu'on peut. On espère viser le titre. Encore une fois, ça va être comme une année très très dure parce qu'il y a beaucoup de Oreca 03 Nissan. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'équipes, donc ça va être une année très relevée, mais bien sûr très intéressante pour nous en tant que pilote et équipe. Après moi personnellement, maintenant mon objectif c'est de vraiment me positionner comme pilote professionnel par rapport aux autres et pour justement viser maintenant 2013 une passe en LMP1 pour championnat du monde.
Premièrement, ce sera les 12 heures de Sebring. Ce sera donc, tu l'as dit, dans quelques semaines.
Dans deux semaines,
c'est ça.
Juste une petite précision pour savoir, excuse-moi de t'interrompre comme ça, mais je vais t'aider pour la réponse parce que, alors, c'est assez drôle. Je trouve que vraiment le site est très très bien fait. Hein, le site de notre invité Olivier Lombard est très bien fait. Et d'ailleurs, il y a le minutage, quelque part, le chronométrage avant la compétition. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent s'instruire et se tenir informés de ton actualité, je trouve ça très bien fait. Donc voilà, la réponse, elle est sur le site d'Olivier, elle y est.
Et le site d'Olivier, je vais le mettre sur la page Facebook, toute belle, toute neuve. Vous allez voir ça.
Tu vas le remettre, puisque Mathieu l'a déjà dit, je peux le dire. Il est très
bien. Assez... Fermé.
Oui, voilà. Remets-la. Voilà donc cette année 2012 est importante. Dans deux semaines, les 12 heures de Sebring aux États-Unis. Donc en LMP1, les trois Audi seront là. Lotterer, Treluier, Fassler qui ont remporté 24 heures du Mans l'an dernier. La deuxième avec McNish, Christensen, Capello. Et la troisième avec Timo Bernard, Romain Dumas. Et le troisième, je ne l'ai pas. Les deux rébellions. Et notamment, on aura Prost.
Duval, le troisième.
François Duval.
Merci. Tiens,
Loïc,
François
Loïc Duval, pardon.
Ah, parce que je me dis François Duval.
C'est le rallye.
Ouais.
C'est le rallye.
Ça fait longtemps que j'en ai plus entendu parler, François. Très sympathique au demeurant.
C'est un belge en plus.
Oui, oui. Très sympathique au demeurant. Et ce serait bien une fois de pouvoir l'inviter d'ailleurs.
Et pour la petite précision, Audi va utiliser deux Audi Audi R18 hybride et utilisera comme troisième monoplace son Audi R18 de l'an dernier.
Pour comparer un peu les performances. Nous aurons les deux Rébellion Racing avec Prost, Yanni Hetfeld qui est de retour et notre équipe de Rébellion Suisse avec Bellucci, un Italien, et Harold Prema. Et Jeroen Blekemolen, Chris, je ne suis pas néerlandais.
Blekemolen. Voilà. Je n'ai pas le nom exact devant moi, mais ça doit être comme ça que ça se prononce.
Voilà, sûrement. Voilà. Oak Racing avec Guillaume Moreau et deux autres coéquipiers. Le team Pescarolo, bien sûr, avec Emmanuel Collard, Julien Jousse et Jean-Christophe Bouillon. Straka Racing et JRM avec Karun Chandok. Notamment donc en LMP1, les Audi et donc les Toyota commenceront lors de la prochaine manche du World Endurance Championship, le nouveau championnat. Est-ce que Olivier, justement, cette nouvelle appellation, est-ce que ça change grand chose au niveau sportif ou au niveau réglementaire?
Au niveau réglementaire, pas tant que ça, mais par contre au niveau sportif, oui, ça change beaucoup de choses parce que contrairement à l'année dernière où c'était ILMC. Cette année, c'est vraiment une appellation championnat du monde FIA. Donc ça prend vraiment tout son sens et que ça soit vis-à-vis des partenaires ou vis-à-vis des équipes, le niveau est vraiment haussé d'un cran. Et donc ça a vraiment une forte signification cette année.
Très bien, donc les trois Audi en tête d'affiche à Sebring. On rappelle donc les Toyota viendront lors de la prochaine course. Et face au Pescarolo et Rebellion, ça va être tellement une boucherie pour les Allemands. Je pense qu'ils vont se régaler lors de cette catégorie. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la LMP2 avec donc le Signatec Nissan. Notre ami Olivier Lombard, Franck Mailleux et Jordan Tresson, hein, une triplette française. C'est assez sympa avec l'équipe française également. Alors justement, parle-nous de cette équipe Signatec Nissan. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi que tu l'as choisi, enfin, au niveau des négociations, est-ce qu'elle elle t'a vraiment séduite?
Oui, bah, j'ai pris en compte quand même ce qu'ils avaient fait l'année dernière au niveau des résultats, donc qui était très bon. Après, c'est vrai que je connaissais très bien l'actuel team manager qui est Philippe Sino, donc c'était un ancien ami de mon père également. Donc c'est ce qui a fait, enfin c'est tout ça qui a fait que on a finalement signé un contrat ensemble. Et surtout, ben je vous dis, c'est une fois qu'on est avec un constructeur, c'est il faut vraiment tout faire pour y rester. Donc c'est ce qui a encore plus appuyé ma décision d'être avec eux pour cette année.
Alors oui, est-ce que Nissan et justement est-ce que Nissan, le constructeur japonais, peut apporter des sortes d'avantages au niveau de la suite de ta carrière, car je sais que tu nous l'as dit en off, tu pourras nous le dire, tu aimerais rouler au Japon, c'est ça aussi?
Ouais, c'est une de mes grosses envies actuellement, c'est de pouvoir rouler au Japon. Donc dans la série Super GT 500, qui au Japon c'est un peu la Formule 1 japonaise, donc c'est un super championnat avec beaucoup de constructeurs japonais et beaucoup de pilotes, de très très bons pilotes. Donc c'est un de mes objectifs aussi pour 2013, c'est d'arriver à courir dans une équipe, notamment Nissan en Super GT.
Et alors est-ce qu'en LMP2 ce serait l'équipe favorite de cette catégorie, la Signatec Nissan? Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de tes concurrents, parce que pour nous éclairer un peu?
Ben cette année, comme je vous disais, il y a un niveau très fort. Je pense qu'il est vraiment pas comparable avec celui de l'année dernière. Toutes les équipes veulent avoir un titre de champion du monde. Donc là, au niveau des équipages, pareil, on a vu, il y a des équipages quand même assez monstrueux, si je puis dire. Et donc ça va faire de très très belles courses. Justement, sur les courses de 6 heures, pour moi, ça va être plus des courses sprint que des courses d'endurance. Tellement le rythme va être élevé et ça va se jouer vraiment à très très peu de choses pour avoir la victoire ou un podium. Donc encore une fois, il y a des équipages qui sont très réguliers, fiables et en plus vite. Donc il va falloir être aux avant-postes vraiment partout.
Est-ce que tu as un objectif chiffré sur cette saison? Est-ce que c'est prématuré d'en avoir un, Olivier?
Ouais, c'est difficile à dire.
Question piège, je l'avoue.
Ouais.
Donc pour le moment, c'est quand même relativement. Tu y réponds quelque part en disant que c'est un peu prématuré. On verra un peu au cours de la saison. Quoi.
Voilà, oui, il vaut mieux déjà prendre ses marques, et voir comment ça se passe à la première course, et puis après on pourra peut-être prognostiquer un petit peu plus. Ouais, mais bon.
D'un autre côté, quand on a le destin comme le tien, quand on connaît un peu ton parcours et on sait que ton adaptabilité était vraiment fulgurante partout où tu es passé. Je peux comprendre que tu es un peu hésitant à ne pas dire « attendons un peu trop ». Donc on verra Olivier, ce sera la meilleure réponse. Mathieu.
Et pour en revenir aux 12 heures de Sebring, quel est ton planning là lors de ces 15 prochains jours? Quand est-ce que tu pars en direction des States pour préparer cette magnifique course?
Ben, je pars déjà vendredi prochain, là. Ça commence à arriver très très vite. Donc là, je termine sur les semaines qui arrivent, je termine de préparer mon physique. Puis après, j'ai au niveau de la logistique, des affaires à prendre, etc. Parce que là, si on oublie quelque chose, c'est fatal. Donc il faut vraiment penser à tout. Et puis après, c'est le jour du départ. Donc je vous dis, vendredi prochain, je serai en Floride.
Est-ce que tu vas arriver à gérer le décalage horaire? Et même dans la saison dernière, est-ce qu'il y a eu beaucoup de décalage horaire comme cela pour l'instant? Parce que je te rappelle, bon, on n'a eu que des pilotes qui restent en Europe pour l'instant. Donc, à part Isan Muller, bon, qui a fait un peu le tour du monde, j'ai pas pensé à lui poser. Est-ce que le décalage horaire, c'est vraiment douloureux à vivre pour un pilote?
Ouais, c'est pas évident. Alors, le problème, par exemple, sur une course comme Sebring, c'est que vu qu'il faut être là une semaine à l'avance, généralement, là, je crois que le programme de Sebring, c'est on a quasiment deux séances d'essai par jour, dont une journée complète le lundi, tous les jours, sauf le mercredi, je crois. Donc, ça fait quand même un programme très, très chargé avant même la course. Donc déjà, toutes ces journées d'essai, plus le décalage horaire qui s'accumule, c'est vrament pas évident de rester au top le jour de la course. Mais bon, on a pas le choix, il faut être là le jour J, et il faut pouvoir encaisser. Donc voilà, tous ces jours d'essai, tous ces efforts mentaux et physiques, en plus du décalage horaire pour être au top le jour de la course. Ouais, c'est pas évident.
J'ajouterais que...
Et tu as déjà commencé à...
Vas-y Alex, vas-y.
Et tu as déjà commencé ou pas à voir un peu sur le circuit avec des divers simulateurs, bien que ce soit complètement différent, à ressentir un peu le circuit, un peu à connaître ce tracé?
Bah, des simulateurs, non, j'aimerais bien en avoir un chez moi, mais malheureusement, non. Mais par contre, oui, on fait un gros travail au niveau vidéo, au niveau acquisition de données. Donc tout ça ça peut être moi personnellement qui demande à l'équipe les informations que je veux. Donc par exemple, j'aimerais voir ce tour-ci avec telle condition, avec tel pneu, telle quantité d'essence, pour que moi après mentalement je me rende compte de ce qui va se passer après sur la piste. Et ça permet aussi de toujours faire travailler un peu mon cerveau, je dirais. Pour après, une fois que je suis en situation réelle, je sais quoi faire et je sais à quoi m'attendre.
Et bon, on espère que tu vas briller, hein, assez brillant. Bon, je pense qu'on a été complet, messieurs, sur cette partie actualité riche de notre invité. Si vous le voulez bien, on va commencer à remonter le fil du temps, hein, et parcourir un peu cette carrière riche en émotions. Je sais que Jérôme, tu rêves de commencer cette partie-là.
Et c'est surtout un de nos auditeurs sur la page Facebook, Jocelyn, qui nous pose une question. Alors, pour débuter ta carrière, en fait, quelles ont été tes motivations à rentrer dans le sport auto? Et puis, au-delà de tout ça, quelles sont les études que tu as faites ou que tu es en train de réaliser actuellement, en parallèle, par exemple, de ta carrière auto?
Alors, moi, j'ai commencé par le karting il y a 10 ans. Donc, vu que mon père était pilote, c'est lui qui m'a vraiment mis dans le sport automobile. Avant 10 ans, je faisais du tennis et j'ai eu une tendinite au talon, ce qui fait que j'ai dû arrêter le tennis, et c'est de là que mon père a décidé de me faire essayer au karting.
Pardon Olivier, le tennis est ma grande passion évidemment, donc je dois de réagir. Est-ce que tu étais bien Tu étais classé.
Non, j'aime beaucoup le tennis.
Ah bah j'imagine, mais c'est ma grande passion. Et alors là, on va bien s'entendre. Non, mais est-ce que tu étais classé? Tu avais un bon avenir? Tu débrouillais bien ou c'était un hobby comme un autre?
Non, j'étais pas si bien que ça. J'allais juste entrer dans la Ligue des Hauts-de-Seine, mais j'avais pas vraiment un parcours spécial.
Pardon Mathieu, mais il fallait évidemment que je rebondisse là-dessus.
Ouais, alors, t'inquiète pas, j'ai un frère qui est en sport études de tennis là actuellement, donc je sais ce que c'est aussi.
c'est la passion. Ouais. Bref, excuse-moi ouais. Olivier, mais évidemment tu parles de moi j'entends le mot tennis, évidemment je bondis. Hein.
Pas de souci.
Donc donc tu l'as dit, ton papa qui a fait le Mans, je pense, qui t'a amené aussi là-dedans suite à ta blessure au tennis. Et après donc après 10 ans, quand tu as commencé, quelles étaient tes premières impressions? Comment a été ton évolution?
Ben c'est tout de suite bon, c'est vrai que les débuts étaient pas faciles parce que j'avais quand même beaucoup de pression de la part de mon père dès le début. Donc à gérer quand on a 10 de 10 à 12 ans, c'est pas facile, mais bon, la passion a vraiment pris le dessus, et moi-même je me suis mis dedans à fond. Et alors j'ai toujours eu en tête que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, parce que c'est vrai que c'est une question de, enfin, le sport automobile c'est en général c'est vraiment beaucoup une question de moyens et de budget. Donc c'est pour ça que j'ai toujours grandi dans le sport automobile en ayant ça en tête, et je pense que ça m'a aidé aussi à progresser et à pas forcément me mettre une pression considérable.
Et en dehors de cette passion pour le sport automobile, est-ce que tu as fait des études, tu as des passions?
Alors malheureusement je suis allé jusqu'au bac mais que j'ai raté de 2 points. Alors ça c'était il y a 2 ans. Et alors après là, le problème c'est que j'ai voulu le repasser l'année dernière justement juste après Le Mans, mais bon, pour être honnête, la préparation pour Le Mans avait été tellement dure que j'ai pas trop eu le temps de me consacrer aux études, donc au final j'y suis pas allé. Et là donc cette année je vais commencer une formation pour être pilote d'avion.
Voilà,
je suis en train de voir une école aux États-Unis.
Ah, tu seras pas dépaysé.
Enfin,
remarque quand même, les sensations doivent être très fortes aussi, mais un peu plus puissantes quand même encore, j'imagine.
Bah, on a un pilote qui devient aviateur, hein, comme Mark Webber et David Coulthard. Hein.
Non, mais et moi, ce que j'aime bien, c'est... je voulais juste réagir par rapport à ça, cette dictature qui veut qu'on suive des études. C'est vrai que c'est indispensable, mais les études, je dirais qu'en France, comme en Belgique, comme dans nos pays, on a toujours moyen... Il y a des cours de déformation diverses, on a toujours moyen de rattraper le temps perdu quand on a un potentiel et un talent important et qu'on n'a pas vraiment le temps et le planning d'avoir des choses. Alors bon, mais non, je ne vais pas te démotiver pour faire ce que tu dois faire, mais moi je ne supporte pas cette dictature vis-à-vis des que tous les jeunes seraient obligés de faire des études. Bien sûr que c'est mieux, évidemment que c'est mieux, mais il y a toujours une séance de rattrapage. Il ne faut pas penser que qu'après c'est la jungle et si personne... Non, et c'est des gens en plus qui ont souvent le... c'est des pilotes qui réussissent, donc souvent ils ont un mental, ils sont des guerriers, ils lâchent rien, donc il est sans doute probable qu'ils réussiront plus tard leurs études, ou tant mieux s'ils les réussissent maintenant. Mais
c'est un coup de gueule.
C'était mon coup de gueule. Non, mais j'en ai un peu marre de cette dictature des études avec les sportifs. C'est vrai que c'est mieux, on peut pas dire c'est mieux d'avoir un diplôme en poche. Maintenant, ils vont pas se mettre la corde autour du cou s'ils en ont pas un. Ils auront d'autres occasions de se rattraper si ce n'est pas le cas. Mais je précise quand même que c'est vrai que c'est mieux, voilà, parce que je sais que je vais mettre beaucoup de gens à dos. C'est mon coup de gueule du soir, Mathieu, voilà.
Bah oui, c'est vrai qu'il faut jongler avec ça quand on est jeune, parce que sinon les parents nous poussent à faire
si
les études.
Si on peut, tant mieux. Si on
travailler
peut pas,
à l'école, voilà. Pour après avoir un volant,
mais oui.
Il faut de l'argent. Après, peut-être les études, c'est pour avoir un métier plus tard si on sort des sports mécaniques, pour un peu s'assurer son avenir. Mais bon, chacun est libre de tracer sa voie et son destin. Et puis bon, soit il réussit, soit il n'y arrive pas. Mais bon, c'est la vie. Voilà.
On va continuer évidemment sur le parcours et sur le monde des sports auto, Mathieu.
Voilà, alors, Alors, moi, je préfère remonter dans le sens décroissant. On reviendra sur la fin, peut-être à la fin.
Et des pains au chocolat.
Oui. Voilà, ça, c'est une nouvelle blague belge. Donc, avant l'endurance, tu as fait la formule BMW, c'est de la monoplace. Alors, pourquoi avoir aussi choisi l'endurance et pas avoir poursuivi en monoplace? Qu'est-ce qui t'a déplu dans cette catégorie?
Alors, je dirais qu'il n'y a rien qui m'a vraiment déplu, mais par contre, je reviens à ce problème de budget qui était présent à la fin justement de ma saison en formule BM. Pour aller dans les catégories au-dessus, c'était des budgets faramineux et en plus il n'y avait pas énormément de place, donc il fallait vraiment prendre une décision, savoir où est-ce qu'on allait s'orienter, où est-ce que j'allais aller. Et au même moment, donc, j'ai eu une opportunité pour rouler en Formule Le Mans, qui est l'équivalent, un peu l'école de l'endurance. Et donc j'ai fait 3 courses en Le Mans Series, donc c'était en 2010, qui se sont super bien passées. Vu que je suis arrivé, ils m'avaient mis sur la voiture qui était déjà deuxième au championnat. Il restait encore 3 courses et on a fait deux podiums et on a terminé deuxième du championnat. Donc pour moi c'est un très très bon début déjà en endurance. Et donc d'ici là, vu que c'était dans l'équipe au Pracing. C'est de là que on a commencé à travailler sur le projet LMP1 qui devait se faire pour 2011 et qui malheureusement a capoté pour moi. Mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en endurance, quoi. C'est un choix, mais
c'est
un
choix
un petit peu obligé.
Ouais, c'est pas un cheminement, c'est un peu arrivé, voilà. C'est le destin, c'est arrivé sur le tas.
Voilà, mais bon, que je regrette pas du tout.
Ah bah, bah si tu le regrettes, je sais pas ce qui se passe, hein, parce que c'est que tu es un petit peu difficile si tu le regrettes, ce choix-là.
Ouais. Voilà, et oui, donc justement, alors tu disais, donc la GT au Japon, c'est pas de l'endurance, c'est de la monoplace, c'est ça?
Tu parles de la Super GT?
Voilà, la Super GT, ouais, au Japon, c'est une référence.
C'est des courses, non, c'est des courses en berline.
Oui, c'est de l'endurance.
Mm. Oui, c'est de l'endurance, ouais.
Mm. Voilà. Oui, voilà, c'est pour ça.
C'est ton... ouais, sprint endurance, on peut dire.
Ouais. Parce que justement, à ton âge, est-ce que tu veux rester dans l'endurance, ou est-ce que aussi, la monoplace te refait rêver, ou d'autres disciplines en sport automobile?
Ben, en fait, moi, je vois ça en, j'ai trois étapes. J'ai court, moyen et long terme. Donc, court terme, c'est cette année, c'est pouvoir avoir un titre championnat du monde. Après moyen terme, c'est d'ici l'année prochaine à deux ans, c'est de pouvoir vraiment intégrer, enfin pouvoir évoluer en LMP1 chez un constructeur. Et puis après j'ai le long terme où là j'aimerais vraiment pouvoir revenir à la monoplace et notamment là viser vraiment le plus haut qu'est la F1.
Est-ce que t'as pas peur, Olivier, que c'est très respectable et en plus sans sortir la brosse à reluire, enfin il suffit de consulter ton palmarès pour savoir que t'es quelqu'un qui t'adapte vraiment. En plus t'as une pression, on va un peu raconter un peu ce qui s'est passé à Spa, etc. Donc c'est pas évident, tu t'es adapté avec une voiture que tu connaissais pas, donc tu as cette faculté là, évidemment, ce don, je dirais même. Mais est-ce que tu n'as pas peur, peut-être pas pour toi mais pour les futurs constructeurs, qu'ils n'aient pas confiance, que tu fasses un peu ce grand écart au moment où tu reviendrais, je sais pas, éventuellement vers 24 ans, vers 25 ans sur la monoplace? T'as pas un peu peur que les portes se referment à ce moment-là?
Non, je pense pas. Au contraire, je pense que ça peut plus m'aider qu'autre chose. Et parce que notamment, si on compare par exemple un pilote qui aura fait full monoplace et un pilote comme moi qui aura fait de l'endurance, j'aurai des acquis et des connaissances et peut-être des capacités qu'un pilote qui aura fait que de la monoplace n'aura pas. Après maintenant ça reste vraiment par exemple pour la Formule 1, si je prends le plus haut niveau, ça reste vraiment une question de moyens et d'opportunités. Donc si j'arrive à réunir les deux, pourquoi pas.
Alors est-ce que tu as donc, pourquoi pas la Formule 1pourrait-elle s'ouvrir un jour à toi, ou est-ce que tu laisses la porte ouverte, ou tu penses que ça va être complètement impossible à y accéder?
J'ai pas envie de dire impossible, parce que si j'avais su que j'allais faire ça l'année dernière en endurance, je pense pas que je l'aurais cru. Donc j'ai pas envie de dire impossible. Maintenant, je veux pas non plus rêver et vraiment, je veux vraiment rester les pieds sur terre. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de travail à faire pour y arriver. C'est pas par hasard si on arrive à aller en F1. Donc ouais. Voilà, je veux juste me donner tous les moyens pour évoluer correctement dans les 3-4 ans à venir, et on verra ce qui se passera.
Et en même temps, Mathieu, pour compléter un peu la question et même la réponse, la Formule 1, effectivement, il y a d'autres paramètres, comme on en a déjà parlé avec Olivier, et c'est un débat qui revient avec tous nos invités, évidemment, la finance, où on voit que les jeunes pilotes, les talentueux pilotes sont aidés, mais pas toujours avec parcimonie, on va dire, pas toujours fréquemment. Et on voit aussi qu'il y a l'entourage qui est important en Formule 1, qui aurait pu imaginer il y a 12 mois que Charles Pic aurait son baquet en Formule 1 cette année-ci, qui aurait pu imaginer il y a 24 mois, non mais voilà, je vais faire le grand écart exprès, il y a 24 mois que ce serait Jérôme D'Ambrosio qui aurait signé quelques mois après en Formule 1. Donc, évidemment, il y a des fulgurances, il y a des talents qui naissent, et puis voilà, il y a cette adaptabilité. Donc, évidemment, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais évidemment, dans 1% de la tête d'un cerveau, d'un jeune pilote talentueux, il y a toujours cette optique-là, et tant que la porte n'est pas refermée, je suppose que voilà, ça reste dans un petit coin de la tête et on espère toujours. Je suppose, hein.
Oui, non, c'est exactement ça. Tant que la porte n'est pas refermée, même si elle est légèrement entrouverte, on peut toujours essayer à l'ouvrir, donc il faut pas perdre espoir et bosser dur.
Il faut mettre le pied devant.
Parce voilà. Que pour le moment, on a vu qu'il y avait des pilotes de F1 qui allaient en endurance. Pour le moment, on n'avait pas encore vu des pilotes d'endurance qui allaient en F1 là, lors de ces dernières années. Peut-être on a eu Alan McNish chez Toyota, mais encore, il a fait que très peu. Il a fait juste des essais. Donc, on peut te souhaiter tout le mal pour toi dans ces prochaines années.
Il y a quand même un pilote à citer, c'est Schumacher, qui lui a fait de l'endurance à la Formule 1.
Et qui avait un papa aussi qui l'a poussé dans le milieu automobile, etc., hein, faut le dire.
D'accord. C'est Peter Sauber.
aussi.
Oui, oui, exactement.
On peut souhaiter le même destin que Schumacher. sauf que lui, il n'a pas gagné Le Mans, donc tu auras encore mieux fait que lui. Mais malheureusement, ce sera le seul gros problème. Je crois que tu ne répondras plus à nos invitations sur RTS. Enfin, écoute, non, si non, ça peut.
C'est joliment dit, Chris. Ça, j'aime bien, tu vois.
Ouais. On sait jamais, on sait jamais.
Donc, notre ami, pour l'instant, est très jeune. On le sait, il reste pour l'instant en endurance. Pourquoi pas au Japon, hein, ce serait une aventure exotique hein, à faire, ça c'est clair. Et bon, la F1, le rêve absolu, mais bon, hein, pour te rassurer, notre ami Eduardo Mortara, qu'on a reçu il y a deux semaines, lui, la F1, ça n'inquiète pas plus que ça, il est très bien en DTM, et il a signé avec Audi et le Team Rosberg, et il va commencer prochainement sa saison. Donc, notre ami suisse, ouais. On va le suivre de très près, et au moins il a raison, hein, il n'y a pas que la F1 dans la vie pour certains pilotes. Bah, lui, il l'a compris. Après, voilà, c'est sûr pour d'autres gens, peut-être même plus jeunes, la F1, c'est encore le summum des sports mécaniques. Mais c'est vrai, pour se faire plaisir dans sa passion, hein, il y a beaucoup de choix possibles.
Surtout quand Olivier a d'autres ambitions. Donc, à la limite, et c'est très rare, hein, encore une fois, je trouve que c'est un cliché de dire que tous les jeunes aux pilotes talentueux pensent à la Formule 1. On a reçu des invités, effectivement, qui disaient c'est le but, et j'y travaille tous les jours. Mais c'est excessivement rare. Et en même temps, à la limite, c'est noble, quelque part, de viser cette ambition-là. Donc voilà, mais en tout cas, Mortara n'y veut pas, donc ça fera un concurrent de moins pour Olivier dans quelques années.
Voilà. Te fais pas de sushi sans mauvais jeu de mots.
Oh là là, c'est le festival ce soir. J'ai contaminé tout le monde, j'en suis vraiment navré.
Ça mérite la pompe à vélo, Jérôme.
Ouais, mais elle est pas prête, là. Le temps que je la mette en route, on sera déjà passé à la cinquième vanne d'Alex.
Il est dégonflé, là.
Pas de soucis. Donc, revenons sur cette formule BMW.
Oh ben. Ah là, la pompe à vélo qui est de retour.
Voilà, elle est de retour. Revenons sur la formule BMW. Donc, c'était l'année 2011. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, donc? Et forcément, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Parce que, bon, je pense que beaucoup de gens d'entre nous hein, n'ont pas forcément été au courant de tes performances.
Attends, est-ce que tu peux juste répéter la question?
En formule BMW en 2009, qu'est-ce que tu peux nous dire hein, pour nous raconter un peu cette aventure?
Une expérience.
Parce qu'on n'a pas été au courant, bien sûr, de ce qui s'est passé.
Ah oui, il n'y avait pas le motor show à l'époque.
Voilà.
Et la BMW, donc ça a été une année vraiment très formatrice pour moi. Où j'ai fait qu'une année de monoplace, donc ça a été une année vraiment formatrice où j'ai acquis une grosse expérience en automobile, que ça soit par exemple en peloton, dans la mise en action, exploiter des pneus, aller chercher la performance et également découvrir des beaux circuits parce que le championnat était vraiment magnifique. On a été à Monza. On a été à Spa, on a été à Silverstone, donc on a fait des super circuits. Ça m'a fait découvrir des pays vraiment intéressants et qui me servent encore maintenant. Vu qu'en proto l'année dernière, on a roulé sur des circuits que j'ai découvert en monoplace, donc comme quoi ça m'a servi d'une année sur l'autre.
Non, c'est moi qui t'ai interrompu, mais tu parlais de circuits. On va évidemment mettre de côté Le Mans, parce que sinon je connais ta réponse, mais quel est, excepté Le Mans, ton circuit préféré?
Spa.
Mon circuit préféré?
Excepté Le Mans, évidemment.
Alors, hormis Le Mans.
Ah, bien sûr.
Hormis Le Mans,
Sebring. Ah, je l'ai pas encore connu.
Si, j'ai roulé déjà l'année dernière aussi, en début d'année. En Formule Le Mans, c'était une petite course que j'ai fait. Mais mon circuit préféré, j'aime beaucoup Spa.
Ah.
Tu as raison.
J'aime beaucoup Spa. Je n'ai pas dit j'adore Spa, mais j'aime beaucoup Spa. Mais celui que j'adore, c'est vraiment ça reste Le Mans. Je peux pas m'en empêcher.
Ouais.
Mais Spa, c'est un très beau circuit. Vraiment le Raidillon, passer le Raidillon à fond en proto, c'est pareil, c'est un instant magique.
Hein. Ouais. Et est-ce que tu passes à fond dans le Raidillon justement? Je pense pas, non.
Si on est à fond.
Avec le poids et tout, c'est pas pénalisant. C'est assez, ça va être spécial quoi, de comparer à la Formule 1 par exemple. Je pense que c'est différent.
J'ai pas encore conduit de Formule 1, mais oui. Non, c'est ça passe très très vite. En proto, j'ai plus les kilomètres heure en tête, mais on doit bien passer dans la Dillon à plus de 230, donc 230, 240, donc c'est très impressionnant. La sensation des jets, on est vraiment collé dans le baquet au moment là, de la pulsion, donc c'est...
Ouais.
Non, il y a quand même des bonnes sensations, même si on n'est pas en F1.
Et par contre, comme tu as pour envie d'aller au Japon, j'espère.
Ah oui, Mathieu. Suzuka, évidemment.
Suzuka, c'est un rêve aussi.
Ouais, voilà. J'aimerais bien y aller aussi à Suzuka. Malheureusement, là, sur cette année au championnat, c'est le Mont Fuji. Mais Suzuka, j'espère qu'il arrivera bien assez tôt.
C'est tout simplement le circuit préféré de Mathieu. Voilà pourquoi il te pose la question. Il faut simplement
Et le circuit que t'aimes le moins, alors, Olivier?
Ah, c'est une bonne question, ça.
Le circuit que j'aime le moins.
Tu peux dire Suzuka.
non, le circuit que j'aime le moins, c'est en Hongrie. J'aime pas trop le circuit en Hongrie. Hungaroring, c'est pas un grand cru pour moi.
Ouais. Monotone.
Enfin,
oui, tourniquet.
Tu le trouves monotone, il te demande, Jean.
Non, c'est que, en fait, c'est plutôt l'enchaînement des virages qui est assez, assez spécial. C'est-à-dire, ça casse le rythme, en fait.
Ouais, non, mais c'est ça, souvent les pilotes disent on a l'impression de rouler sur des œufs, on sait jamais à quelle cadence faut y aller, puis le plaisir évidemment s'amoindrit.
Ouais, exactement.
Et juste, on précisera Mathieu que le Redi encore, on l'a changé ces dernières années, parce qu'il faut se rappeler qu'avant c'était encore plus violent que ça. Ça me fait penser à un ami qui m'a dit il y a quelques jours, moi j'ai fait le Redi à fond, j'étais tout en vieux, je lui ai dit ah bon, et c'était quelle sensation, il m'a dit j'ai beaucoup de vent parce que j'étais à vélo, donc ouais, il m'a bien eu. Et je ne le salue pas.
Eh oui, question intéressante de Simon Jérôme sur le chat.
Oui, tout à fait, on parle ensemble de circuits qui sont représentés dans les sports monoplaces, avec Spa et le Garoing. Il y a Simon qui demande sur le chat, si demain on te proposait de piloter en monoplace, attention pas en Formule 1, mais par exemple en GT2, GT3, ou en 3.5, ou 2.0.
Tu as l'âge encore. Hein,
voilà. Est-ce que tu serais d'accord, du coup, pour passer de la LMP2, donc à ces disciplines qui sont, on va dire, une porte d'accès à la Formule 1?
J'y réfléchirai quand même avant, parce que je pense qu'il faut pas le faire si c'est pour se griller les ailes. Il faut pas le faire. Il faut vraiment bien préparer son coup pour pouvoir dès la première course être au top niveau, et jouer devant. Parce que si on s'engage dans cette voie-là et qu'on n'est pas préparé et que c'est pour faire des dixièmes places, des sixièmes places, ça sert à rien parce qu'on au final, c'est plutôt l'image qui va en pâtir et puis ça va s'arrêter très vite. Donc, je dirais oui, mais avec modération.
On arrive à la fin de l'émission. Je suppose que, bon, il te reste...
Pardon.
C'est le deuxième. Hein. En général, j'ai un lapsus tous les trois mois et si j'en ai deux dans la soirée.
Ouais. Alors, bon, Chris, donc notre ami Tristan Vautier va être un peu en retard là. À 21h30, il a quitté l'aéroport de Lyon pour revenir chez lui à Grenoble. Il sera un peu en retard. Donc, c'est pour ça, Olivier, ça te dérangerait de rester un peu avec nous en attendant, Tristan, tu peux, pour aussi finir un peu cette remontée dans le temps avec nous, parce que je pense qu'il y a encore quelques questions.
Bah, d'abord, attends.
Entre passionnés, ça me fait plaisir de rester.
Oh, il est gentil, Olivier.
Ça fait plaisir que tu restes aussi. Ça va un peu nous aider.
Mais de toute façon, moi j'avais pensé autour de 22h lui poser justement une question un peu pour sortir. On va revenir sur, à moins qu'on reste sur sa carrière et puis après on lui parle un petit peu, voilà, des autres sports.
Non, je pense que là c'est la libre antenne.
Libre antenne, hein, j'ai feu vert. Donc je suppose que évidemment les sports automobiles c'est ta passion principale. Est-ce que tu as d'autres passions sportives outre les sports mécaniques? Je devine évidemment une partie de ta réponse.
Non, j'ai une passion que j'ai aussi, c'est les arts martiaux.
Ah bon? Et tu fais, tu as pratiqué quel genre d'arts martiaux?
J'ai fait un peu de karaté pendant quelques années, mais bon après.
Le problème c'est que maintenant tu peux plus en faire. Non.
Pardon?
Le problème c'est que maintenant tu peux plus faire ce genre de choses, non?
Ben c'est un petit peu plus difficile. C'est un peu plus difficile maintenant. Là, je suis en train de voir pour pouvoir faire un peu, pour commencer le taekwondo, vu que ça se fait avec plus de protection, mais c'est dur aussi de résister à l'envie. Mais voilà, ça fait partie d'une de mes autres passions.
Et comme il y a un peu les réflexes aussi, non, qu'on peut avoir au volant?
Non, pas vraiment, parce que là, c'est vraiment de la proximité, alors que en automobile, c'est les réflexes à avoir sont beaucoup plus, enfin c'est souvent des choses qui arrivent plus éloignées, donc il n'y a pas vraiment de similitude.
Non, même sur le plan. Sur le
parce
plan.
Que là, le karaté, ça sert plutôt quand tu te crashes avec un autre pilote et qu'il commence à, voilà. À te taper. Donc,
non, mais... Voilà, exactement. Bah, moi, je sais comment lui mettre un coup de boule sans qu'il se relève. Donc c'est...
Est-ce que justement, Nissan t'interdit à faire des sports un peu plus risqués, un peu plus à risque pour te préserver?
Comme le rallye?
Alors, j'ai pas d'interdiction dans mon contrat, mais j'ai des mentions fortement déconseillées par contre. Ouais. Ça, oui.
Bah, t'es risqué, péril, quoi.
Tout ce qui est, enfin, par exemple, sport d'hiver ou parapente, des choses comme ça, c'est vraiment déconseillé.
Donc, c'est au niveau des assurances, évidemment, à tes risques et périls, si tu fais ça, c'est un peu, je suppose.
Que... Oui, ouais, après, c'est à moi de m'en payer les conséquences si ça passe quelque chose.
D'accord, et je vois le genre de très très déconseillé. Donc, et non, mais la petite similitude, puisque tu parles de justement cette passion-là qui est le karaté, j'imagine que ça doit être assez frustrant de ne pas pouvoir le faire. Bon, je suppose que quand tu auras fini ta carrière le plus tard possible, évidemment, tu le reprendras à un degré moindre. Mais moi, je voulais savoir, parce que j'imagine, je connais pas très bien les sports des arts martiaux, je suppose qu'il y a peu
il y a peu de... Pas les sports martiaux,
non, pas très bien. Pas beaucoup. Mais encore moins les arts martiaux. Et je suppose qu'il y a très peu de connaisseurs d'arts martiaux, justement, sur le chat ou quoi, auquel qu'elles pourraient évidemment intervenir, mais au niveau des points communs, j'en vois pas beaucoup. Peut-être que le sang-froid, c'est peut-être ça qui... La gestion du sang-froid, la gestion mentale, ça t'a aidé?
C'est beaucoup... ce que je ressens, c'est beaucoup au niveau de l'adrénaline. Par exemple, quand on combat une personne, il y a quand même une forte adrénaline. Et ça a beaucoup de... C'est très similaire à ce niveau-là. Au niveau de ce qu'on ressent, sur le moment, on est sur le point de combattre. Enfin, j'ai l'impression de parler comme un boxeur qui va faire championnat du monde, mais... c'est ce qu'on ressent un petit peu, ce que je ressens un petit peu, quoi.
Non, mais de toute façon, quand on est passionné par quelque chose, on a tous ce discours-là, tu sais, quand on parle de notre passion sportive ou une de nos passions sportives, on a tous des discours de champion du monde. T'inquiète pas, Olivier.
Bon, c'est rassurant.
Ah oui. Voilà.
Oui. Bon, je pense que Tristan arrivera après ton départ, donc j'ai une petite question. On peut revenir sur l'événement du mois de décembre dernier qui a tenu en haleine toute la population française dont j'en faisais partie et notre autre Olivier de Pédiaté aussi qui était
l'affaire des là.
Non, en décembre, c'était pas en mai dernier.
Le Père Noël.
Et moi, dans les tribunes. Oui, voilà, et Alex qui était aussi là.
C'est libre antenne, on va se recadrer quand même là.
Oui, surtout que sur le chat, ça a l'air de parler de ce sujet-là à la perfection. Donc nous, on va revenir.
Ah oui, alors là, c'est vrai que ça frappe super bien sur le chat, là.
Hein. Nous, on va revenir justement dans le métier. On parle des Masters Kart de Bercy, tout simplement. Olivier, comment a été ta réaction quand tu as appris ton invitation, forcément grâce à cette performance au Mans? Est-ce que ça a été plutôt sympa de revenir au karting qui t'avait permis de commencer ta carrière entre 2004 et 2008?
Ah, j'étais vraiment super content parce que je voulais vraiment le faire et au final d'avoir eu cette invitation, c'était vraiment génial parce que je me souvenais quand j'étais petit, j'allais toujours voir cette course-là avec les grands champions et quand on se rend compte qu'on va faire cette course, on va se retrouver là où on voyait les champions avant, on a même du mal à réaliser et on se dit qu'on va vraiment prendre du plaisir quoi.
Et alors, la sensation, pole position, le samedi, lors de la première manche, qu'est-ce que ça fait? Je pense que quand on a vu ton nom en haut de la feuille, même moi j'étais un peu surpris, hein, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que c'était inattendu? Comment tu as préparé ce tour dans un circuit assez tortueux, assez compliqué? Comment tu as fait pour sortir ce tour d'anthologie?
Ben, je sais pas, j'avais un peu l'impression d'être en transe, mais non, je me suis vraiment, vraiment appliqué. Et surtout avec les moteurs électriques, ce qui était important, c'est d'être vraiment fluide tout dans la partie sinueuse. Et là, c'était pari gagné parce que je l'ai vraiment bien fait sur mon tour. Je savais que ça allait faire un bon tour. Par contre, c'est vrai que je n'imaginais pas que les autres pilotes allaient pas relever mes temps. Et au final, j'ai tenu jusqu'à la fin, donc j'avais vraiment une grande satisfaction, surtout que j'avais du monde, ma famille, des partenaires, etc. dans les tribunes, donc c'était tout bénéf pour moi.
Et alors, justement, dans leur son aspect général avec les autres pilotes, est-ce que tu en connaissais bon, à part peut-être les pilotes d'endurance comme Stéphane Sarrazin ou Franck Montagny, ou encore peut-être Sébastien Bourdais, est-ce que tu connaissais d'autres pilotes?
Je connaissais un petit peu Tristan, que j'avais croisé à plusieurs reprises. Je connaissais aussi Sébastien Bourdais, de l'endurance. Après, non, je connaissais pas vraiment les autres pilotes. Même que ce soit Franck Montagny ou Stéphane Sarrazin, j'ai appris à les connaître à ce moment-là.
Il y avait plutôt une bonne ambiance, parce que bon, on ne sait jamais.
Il y avait vraiment une bonne ambiance. Bon, je dois dire que le dimanche, ça commençait à devenir un peu chaud. On sentait les esprits s'échauffer un peu. C'était plus Vendetta & Co, mais bon, c'était super. Il y avait une bonne ambiance avec que des grands champions, notamment des gens que je vais retrouver cette année, par exemple en LMP2 avec Stéphane Sarrazin. Ça va être intéressant.
Et alors, juste avant de céder le témoin à Jérôme, est-ce que tu auras, comme tu seras peut-être là, est-ce que tu as une question ou plusieurs à poser à Tristan Vautier qu'on lui posera après? On note ça.
Ça, c'est bien vache. Écoute, Jérôme, pardon, parce que ça, c'est une question bien vache. Alors, je vais t'aider, Olivier. Jérôme va te poser une question. Réfléchis-y un petit peu. Ça, c'est vraiment les questions les plus vaches d'interview. Donc, Jérôme, tu poses ta question et Olivier, tu nous poseras ta question pour Tristan juste après. Alors, à toi, Gégé.
Une question au canon. Alors, il y a Bruno sur le chat qui te pose une question beaucoup plus simple. Quel est ton meilleur souvenir en sport?
En sport, je dirais sans hésiter, Le Mans.
Ah bah oui. Et mis à part Le Mans. Et mis à part Le Mans.
Et mis à
part... Oui, non, mais je savais, moi, qu'il allait répondre.
Parlement...
Spa. Quelque part.
Non, je dirais... Là, c'est pas facile.
Imola.
Non, je dirais que c'est quand... alors, c'est pas vraiment un résultat de course. C'est quand j'ai su que j'étais choisi pour faire partie du BMW Junior Team pour le championnat Formule BMW. Là, ça a été aussi un super moment.
Ah oui, la dévastation de joie et de bonheur, j'imagine. Hein. C'est intérieurement.
Ouais,
c'est...
Ouais.
Et j'irai plus loin encore. Quel est ton meilleur souvenir en tant que fan de sport auto?
Mon meilleur souvenir. Allez, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est quand j'allais. Excusez-moi, je vais y revenir. C'est quand j'allais au 24 heures du Mans étant petit avec ma famille,
avec ton papa.
Dans les paddocks et tout. C'est un souvenir incroyable.
Bah, c'est pas si vieux que ça. Hein. Tu vas pas me donner un coup de vieux. On a presque le même âge.
Et Olivier, tu as des souvenirs? Parce que moi, je sais plus exactement quand ton père y a participé. Est-ce que tu as souvenir de l'avoir vu ou tu étais trop jeune à ce moment-là?
Non, j'étais trop jeune. Ouais. J'étais trop jeune parce qu'il a arrêté de courir, je venais de naître, donc c'était un peu dur.
Ah ouais, non, ouais, effectivement. La question con du jour, elle était pour moi, celle-là.
C'est méchant. Et oui, j'ai une petite question pour rebondir sur la Formula BMW. Tu avais intégré donc le BMW Junior Team, est-ce que ça avait un lien avec l'équipe de Formule 1?
Oui, c'était vu que le championnat en fait est organisé par BMW. Nous on suivait les courses de F1 en Europe, donc on était en course d'ouverture. Et ça ça avait totalement un lien avec la Formule 1 puisqu'on avait tout un programme de formation, à la fois un media training, ce qu'ils appelaient un media training, avec donc où on nous apprenait à parler aux médias, etc. On avait aussi les préparations physiques, on a eu plusieurs visites dans l'usine de Formule 1. Donc ça c'était vraiment génial de pouvoir visiter avoir les portes ouvertes à l'usine du F1 où on a vraiment absolument tout vu. C'est aussi réservé à pas beaucoup de monde et
il y avait d'autres pilotes donc connus dans ce junior team.
Alors on était 5 et alors c'est l'année de la BMW où j'étais là, c'était quand même un super cru parce qu'il y avait c'est l'année où il y avait Nasser, il y avait Yunkadella, Fringe Donc il y a quand même des bons pilotes qui sont sortis de là. Et dans les 5 qui étaient avec moi dans le junior team, il y a que Fringe maintenant qui a eu des très très bons résultats.
Ouais, vainqueur en 2.0 l'an dernier, exactement.
Ouais.
Alors, Jérôme, tu as une question sur le chat.
plein de questions, là, ça se succède. Tout d'abord, Simon qui nous demande, c'est une question qu'on aime bien poser d'ailleurs au pilote que l'on reçoit, c'est qu'il est, d'ailleurs, et puis qu'après, en général, on compare les réponses et c'est jamais si éloigné que ça. Qui sont tes pilotes de Formule 1 favoris?
Ou automobile.
Actuel ou passé?
Ou automobile.
Je redoutais cette question.
J'allais te la poser, Olivier.
Je ne vais pas pouvoir répondre parce que j'ai pas vraiment de pilote préféré. Enfin.
Est-ce que tu as des modèles qui t'ont inspiré alors, on va dire.
Pas mal de pilotes de Formule 1 à l'endurance.
Hein. Olivier, mouille-toi, tout le monde.
Non, il est sincère quand il dit ça. Il est sincère quand il dit ça. Mais est-ce que par exemple il y a des pilotes qui t'inspirent au niveau de la gestion de leur carrière ou du style de pilotage?
Attends, Chris, Edouard de Mortara, on lui a dit pas, il nous a répondu pareil. Après, on est obligé de lui dire que c'est Schumacher. Donc, Olivier, je sais qu'Olivier.
Fais-moi confiance, Mathieu. Olivier, est-ce qu'il y a des pilotes qui t'inspirent au niveau de la gestion de leur carrière, la gestion du pilotage, la façon de, voilà, l'orgueil, peut-être aussi le fair play, etc. Je suppose que oui, quand même, Olivier.
Je pense que dans ce cas-là, je dirais Jenson Button.
Ah là, on dit merci.
Bien souvent, Button.
Comme Nathanaël Berton.
Comme Nathanaël Berton, ouais. Le parrain de l'émission, tout à fait.
Absolument.
Ouais. Donc, enfin, j'aime bien son style, à la fois le personnage. Et à la fois son style de pilotage qui est très fin, très propre. Donc c'est les raisons pour lesquelles j'apprécie ce pilote.
Et qui sait, peut-être en 2012, on verra une arrivée au Mans, comme au Grand Prix du Canada dans le dernier tour, Olivier Lombard qui gagne la course.
Avec 4 heures d'interruption.
Ouais. Bon bah, faut quand même plus, le double.
Tiens, pour revenir sur le Mans, Mathieu, si tu me permets, on a Bruno Au revoir alors. On a Bruno qui ça va faire plaisir, je cite son nom une nouvelle fois dans l'émission. Il pose plusieurs questions comparées au Mans, des questions assez précises. Tout d'abord, est-ce que tu as une portion du circuit du Mans que tu préfères par rapport à toutes les autres dans ce grand circuit Bugatti?
Ah, ma portion préférée, c'est Indianapolis. Là, c'est tellement impressionnant quand on arrive dans le droit, parce qu'on est vraiment à très très haute vitesse et justement avec ces voitures-là, plus on a de vitesse, plus on a d'appui. Donc là, on arrive je sais pas comment on arrive presque à 300 et on fait juste un léger freinage et puis on réaccélère tout de suite pour avoir de l'appui dans ce virage-là et le freinage qui enchaîne juste après, c'est vraiment en termes de sensation, c'est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas d'autres portions sur le circuit où on a ce feeling-là. Il faut être à la fois vraiment très très concentré parce que si on loupe le freinage juste après, on est dans le mur tout de suite. Et à la fois vraiment pas rater sa trajectoire parce qu'on est, encore une fois, on est très très vite dans cette portion-là. Donc voilà, c'est mon virage préféré.
Sur ce circuit-là, comment on fait pour apprendre un circuit aussi long que ça? Est-ce que c'est difficile? Je te rappelle, 13 629.
Est-ce que c'est des conditions climatiques qui changent?
Et Mathieu, je voudrais compléter cette question. Est-ce que c'est difficile de retenir des longs parcours, etc. On peut la compléter par une question que j'avais notée. Au niveau des repères visuels, des repères auditifs, etc. Comment est-ce que tu gères tout ça, la mémorisation des parcours, les repères, etc.
Ben ça se fait généralement on commence toujours par le plus important par prendre des repères de freinage. Donc grâce au panneau 200-100 qu'il y a sur le bord de la piste. Ça c'est la première chose qu'on fait quand on arrive sur un nouveau circuit, c'est d'abord prendre les repères de freinage. Parce que bon, si on loupe son freinage, ben on connaît les conséquences que ça, c'est pas joli. Donc voilà, on fait d'abord attention à ça. Après pour ce qui est de la mémorisation du circuit, sur un tracé comme le Mans, finalement ça se fait assez vite la mémorisation. Puis surtout le Mans, j'avais quand même beaucoup joué aux jeux vidéo avant pour savoir où ça tournait. Donc voilà à quoi peut servir la PlayStation.
Il y a des spécialistes chez Nissan de la PlayStation.
Durant ces 24 heures du Mans, quelle partie tu préfères quand il fait jour, le lever du jour, la nuit?
Question de Bruno sur le chat.
Et au niveau des repères, la nuit, ça doit être particulier quand même, j'imagine. Hein.
Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage comme à Singapour.
C'est pas pareil.
Ouais, non, la nuit, ouais, c'est ma partie préférée, je pense, pour beaucoup de pilotes également. Alors, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Moi, la première fois que j'ai roulé la nuit, c'était le mercredi. Au niveau des repères, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal à m'adapter, surtout notamment à Indianapolis, où là, pour le coup, il n'y a pas du tout de lumière. et on arrive très vite, donc il faut vraiment s'adapter, adapter son œil super vite à la, à la vitesse et à la faible luminosité.
Non, et au niveau des frissons, j'imagine que ça doit être quelque chose. Moi, ça me fait penser, bah, je prends un exemple qui est un peu stupide, mais moi, la première fois que j'ai fait du tennis, la nuit, mais on ressent des frissons. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, si t'as ressenti la même chose. À mon modeste, si je peux me comparer à mon modeste niveau, mais je sais pas. Non, mais tu as dû ressentir, en plus, vu le contexte, dans une course aussi mythique, etc., c'est quand même au niveau intérieur, ça donne des frissons et. Jérôme, t'es pas sérieux. Non, c'est une vraie question en plus. Au niveau des émotions, t'as ressenti quelque chose de particulier, j'imagine, non, le fait de rouler de la nuit?
Ouais, c'est...
Merci. Merci. Si tu avais dit non, je partais.
Non, tu as enlevé tes lunettes de soleil, non? C'est tout.
Non, mais moquez-vous, mais faites une compétition de nuit, vous allez voir. Même modeste, c'est déjà particulier.
Non, je dirais des frissons, pas vraiment, mais... Par contre, c'est vrai qu'on se sent vraiment dans son monde. C'est particulier. On se sent vraiment dans son monde. Il fait noir vraiment partout. Il y a seulement les lumières des autres voitures qui vous passent. Donc c'est pas des frissons, mais ça en reste pas moins assez spectaculaire.
Ouais, et je précise, Mathieu, que moi, en plus, la première fois où j'ai joué de nuit, il y avait des étoiles dans le ciel. Donc vous t'imaginez, voilà.
Ah,
c'est peut-être cela qui m'a émerveillé et j'en garde un souvenir exquis.
Non, mais bon, Chris. Tu es belge, voilà.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est tout est résumé. C'est même pas besoin de prendre un vélo.
Au moins, moi j'ai un alibi crédible, hein, les amis.
Allez, vous comprenez ça. Et ce événement dans cette émission, ça va être un super enchaînement entre
nous. Il fait nuit.
Oui, bah, bien sûr. Ça va être un super enchaînement. On a l'honneur et le privilège de recevoir.
Changement
de
pilote.
Il est là, notre ami Tristan Vautier. Bonsoir, Christian. Tristan.
Christian, bonsoir.
Ça fait très plaisir de t'avoir ce soir. Même un peu en retard, il n'y a pas de soucis. Tu es le bienvenu.
Désolé pour ça.
Bon. Il y a de l'ambiance, hein, Tristan. Tu viens au bon moment dans l'émission.
Bravo, bon, bah, super. Voilà, j'ai fait exprès, en fait. J'avais prévu que ça serait comme ça.
T'as qu'à... loupé toutes les bonnes blagues de Chris, en plus.
Ouais. Alors, et on va te baptiser dans l'émission, bonsoir hein, Tristan, on va te baptiser dans l'émission parce que je crois savoir qu'un pilote automobile un peu connu qui s'appelle Olivier Lombard a une question pour toi. C'est à toi, Olivier.
Ah, ça c'est vacheux.
Ah oui, je sais, je sais.
Bah, une question, je dirais, assez basique. Tristan, est-ce que tu es prêt pour ta saison?
Bah, je crois qu'on va savoir bientôt parce que la première course est dans moins d'un mois, mais... Ouais, on a fait un bon programme d'essai, là, je viens de rentrer, on avait un mois de février assez chargé. J'ai fait 8 journées d'essai en Indy Lights, donc sur 4 circuits différents, 2 journées à chaque fois. Et on a bien progressé, je me passe à la voiture, et il nous reste 2 jours juste avant la première course à Saint-Pétersbourg, en Floride. Donc on aura 2 jours à Barber en Alabama, le lundi et mardi avant la course. Donc, voilà, je pense que... J'aurai pas mal de temps de roulage, mais c'est sûr que je suis quand même un rookie, il y a beaucoup de choses à apprendre. On va voir.
Ok. Alors, messieurs, vous connaissez un petit peu, je présume.
Oui. Bah, on se connaît notamment des Mastercard.
Voilà. Ouais, on s'est rencontrés là-bas.
Alors, quelle a été la première réaction? Est-ce que vous êtes dit, est-ce que c'était plutôt cordial ou vraiment, vraiment attention, je vais te battre ce week-end?
Non, c'était super cordial, je pense que l'ambiance était beaucoup plus relaxée à Bercy qu'une course normale, et puis même entre pilotes, donc je sais que entre pilotes, quand on se rencontre, en général, on se respecte, et c'est plutôt assez sympa, en tout cas, une expérience, et puis Olivier est très sympa, donc non, ça s'est plutôt très bien passé, je dirais.
Et alors, je sais pas...
Comment tu restes petit, Olivier, hein?
Bon bah non, moi en fait je voulais taxer tout le monde, mais bon.
Non, donc alors Olivier, bah tu vas bientôt nous quitter.
Oui.
Donc on va faire maintenant Chris la dédicace.
Oui, bah on va te remercier.
C'est obligatoire, et avant de partir, une petite dédicace pour nous. Alors Olivier, je vais te laisser nous dire ici Olivier Lombard, bienvenue sur Radio Talk and Sport.
Ou RTS, hein, comme tu veux.
Alors attends, tu vas me le redire ça, s'il te plaît? Alors, redis-moi.
Ici Olivier Lombard, bienvenue sur RTS.
Ici Olivier Lombard, bienvenue sur RTS.
Voilà.
Merci. Et merci Olivier, et merci de ta disponibilité et de ton professionnalisme. En tout cas,
c'est moi, j'aimerais une petite dédicace. C'est moi, Olivier Lombard, approuve la pompe à vélo de Jérôme. Ça me fait. J'aimerais beaucoup.
Olivier, tu fais très bien. Tu fais très bien. Tu restes professionnel et digne jusqu'au bout malgré ces tentatives d'intimidation de Jérôme qui sont honteuses, je tiens à le dire.
Mais je vois, il a essayé de me pervertir. Là, j'ai tout de suite senti.
Tu as senti. Hein. Tu l'as senti. Et Dieu sait qu'on le sent pas souvent avec Jérôme. Bref.
Olivier Tristan, donc
ça méritait.
Olivier, avant que tu nous quittes, est-ce que vous avez tous les deux un dernier mot à vous dire avant de vous revoir avant longtemps, je pense.
Bien sûr, moi je lui souhaite surtout une super saison et j'espère vraiment qu'il va avoir des super résultats et que peut-être qu'on se croisera un de ces jours sur un circuit encore.
Ouais, et bah de même, bonne chance pour ta saison et puis au plaisir de te voir sur un circuit. Voilà.
Merci Tristan.
Oui, mais il allait m'oublier. Donc Olivier, donc merci de ta disponibilité. Il y a une petite tradition depuis cette année dans l'émission. C'est à chaque on a reçu, on l'a fait avec Yvan Muller, etc. Et en fait, à chaque fois qu'un de nos invités gagne une course, on passe un jingle dans lequel il nous exprime sa joie. Et donc c'est une forme de tradition. Évidemment, au plus notre invité gagne de course, au plus on passe ce jingle. Donc quelque part, c'est un porte-bonheur. Et donc voilà. Est-ce que tu pourrais me faire ce plaisir de faire cette petite dédicace et de participer professionnellement, bien évidemment, à ce projet, Olivier, en nous disant...
Qu'est-ce que tu appelles un jingle ?
C'est très simple, c'est une phrase, et en fait, qu'on ressortira à chaque fois que tu gagnes, c'est une tradition. Et en fait, on a enregistré une phrase comme ça avec chacun de nos invités. Et par exemple, Yvan Muller, il dit « Bonsoir, ici Yvan Muller, et en plus, je roule en Chevrolet. » Et donc, on sort cette phrase-là à chaque fois qu'il gagne quelque part. C'est un porte-bonheur de l'émission que j'ai inventé, qui est un peu crétin, mais qui est assez divertissant. Et donc, voilà, la phrase, c'est tu peux à la limite improviser, mais moi, j'avais trouvé une phrase. Ici, Olivier Lombard. J'ai gagné parce que j'ai de qui tenir. Donc, ou alors tu improvises et ta petite phrase magique.
Pense à la pompe à vélo.
J'aurais bien dit une petite phrase à Jean-Claude Van Damme, mais là j'en ai pas en tête.
Voilà.
Donc, écoute, je pense que je vais te laisser avec celle-ci. Là.
Est-ce que tu peux la dire parce que c'est beaucoup mieux dans ta bouche, s'il te plaît, Olivier.
Si je me souviens bien, c'est si Olivier Lombard. Attends, vas-y, redis.
Ici Olivier Lombard, j'ai gagné parce que j'ai de qui tenir.
Ici Olivier Lombard, j'ai gagné parce que j'ai de qui tenir.
Oh, merci, voilà. Et
je te l'ai fait avec le ton en plus, nickel.
Extraordinaire. Tu vas être un consultant.
Pour les trois premières courses, 12 heures de Sebring, 1000 voilà. km de Spa et Le Mans, bien sûr, en juin, hein, toutes les courses.
On va le ressortir toutes les semaines, Olivier.
Ah, déjà, c'est les trois plus importantes.
Voilà, messieurs, on va devoir se séparer d'Olivier Lombard, qui était notre premier invité.
Merci beaucoup.
Franchement, merci
à vous, messieurs, c'était un plaisir. Et puis, bon courage pour la suite.
Bon courage avec Tristan, ça devrait aller aussi, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, Olivier, Donc, on te souhaite, Olivier, une très bonne saison à toi et tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu dans notre émission. On se tient au courant et si tu veux fêter une victoire dans l'émission, tu seras donc le bienvenu quand tu voudras. Bonsoir à toi, Olivier. Et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Bonne chance, Olivier, pour les 12 heures de Sebring.
Merci. Et je vais me faire le porte-parole des consultants de cette émission. On a passé un délicieux moment, Olivier, donc merci.
Voilà. Il nous a...
Exactement. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, parce qu'on a donc un deuxième invité qui se nomme Tristan Vautier et qui est donc notre invité jusqu'à 23h et des pétantes. On va évidemment déborder. Alors... Je salue évidemment mon ami Bruno. C'est vrai que Olivier était un petit peu long à la détente sur ma petite phrase célèbre, mais je suis sûr, je pense qu'on va la ressortir souvent cette année-ci parce que je pense qu'il va gagner quelques fois. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Voilà, donc merci à Olivier. Alors, Chris, tu l'as dit, on reçoit maintenant pour la fin de l'émission un illustre talent aussi. Hein, Olivier Lombard n'est pas le seul. On a en France, on possède vraiment un vivier de jeunes talents. Vraiment, on se régale avec nous, avec eux, car ils nous permettent de briller dans le monde entier. Alors, Tristan Vautier, pour poser les bases, je me suis dit, en voyant le palmarès, je me suis dit, il ressemble un peu à Paul Louchatin. Paul Louchatin, est-ce que tu le connais déjà?
Paul Louch, on se connaît brèvement, on se connaît pas très bien, mais ouais, on s'est déjà côtoyé.
Parce que je me suis dit, il a un peu la même carrière que Paul Louchatin, une ascension fulgurante. Et bon, là, c'est un peu de l'autre côté de l'Atlantique, bien sûr, mais ils ont un peu une carrière similaire, je trouve. Alors, Paul Lou est un peu plus jeune, mais Tristan, en tout cas, c'est depuis, enfin, en peu d'années seulement, tu as vraiment atteint un niveau exceptionnel et brillé comme ça aux États-Unis, c'est pas rien.
Mm-hmm.
Ouais. Donc, ça, oui, ça, sachant qu'il y a énormément de concurrence. Donc, tout simplement, première question, est-ce que tu trouves vraiment que c'est important de briller à un niveau comme ça pour se faire remarquer? Est-ce qu'il faut avoir un niveau comme ça pour se faire accepter, on va dire, des Américains? Puisque forcément, hein, il y a vraiment une concurrence folle entre eux. Est-ce que ils ont un peu changé de vision sur les Français dans les sports mécaniques?
Bah, les Américains, je pense, avaient déjà une très bonne vision des Français depuis Sébastien Bourdais.
Ouais.
Ensuite, Simon Pagenaud, Jean-Carles, Vernet. Donc, je pense qu'ils ont plutôt une bonne estime pour les pilotes français. Mais de toute façon, c'est clair que là-bas, comme dans tout championnat, quand tu arrives, il faut vraiment gagner si tu veux te faire remarquer et réussir à entre guillemets sur les bons coups. Voilà, par exemple, le prix que je gagne cette année pour passer en Indy Lights était promis qu'au vainqueur et le vice-champion qui a pas réussi à avoir la bourse et ne sait toujours pas son programme pour l'an prochain, il est américain. Donc je pense que partout il faut gagner quoi pour réussir à gravir les échelons, parce que le sport est tellement difficile et il y a tellement peu de place que voilà, c'est assez difficile.
Ah bah il y a une évolution, hein, Mirtu. Il y a quelques années, c'était la quatrième place, la place au chocolat, et maintenant c'est la deuxième, donc effectivement.
Et justement, est-ce que tu as été surpris de ton succès impressionnant aux États-Unis?
Bah dis donc, si je disais que j'ai été surpris, c'est que je parlais pas en moi, mais et non, voilà, je suis allé avec l'objectif de gagner ce championnat Star Mazda en 2010. Ça a été dur la première année. Voilà, quand tu arrives en tant que petit dans un championnat, c'est toujours assez dur de tout mettre ensemble, même si on avait une pointe de vitesse très, très bonne. Et voilà, on a réussi à atteindre l'objectif cette année, et, enfin en 2011, et à gagner ce prix en Indy Lights, qui représente un gros step dans mon parcours. Donc voilà, je peux pas dire que j'étais surpris, mais c'est sûr que c'était vraiment j'ai vraiment réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé en partant là-bas, donc c'est une grande satisfaction.
Alors,
et quels sont tes objectifs l'IndyCar, quand est-ce que tu la prévois?
C'était le premier objectif, déjà gagner ce prix pour passer à l'échelon supérieur, et maintenant le prochain c'est être en IndyCar le plus tôt possible. Je dirais que ça va dépendre de mes résultats. Je suis un rookie cette année en Indy Lights, donc je fais tout pour apprendre le plus vite possible et j'espère être en bagarre pour le titre dès cette année. Mais il faut être réaliste, ça va être très difficile, même si j'espère pouvoir le faire et s'il faudra peut-être 2 ans. Et mon objectif c'est de gagner donc le championnat cette année ou l'année suivante pour pouvoir gagner une autre bourse offerte par IndyCar pour passer en IndyCar. Bien qu'il faille trouver un team qui veut te prendre, bien que...
J'ai une question sur le chat, le forum de notre partenaire nextgenauto.com de Vino93. Voilà, donc je pense que tu pourras plus nous éclairer là-dessus. Il nous a dit, si tu ne crains pas la même chose que Jean-Carles Vernet, il nous a dit, à savoir une sous-médiatisation de son titre en Indy Lights en 2010 aux États-Unis et l'impossibilité de gravir à l'échelon maintenant à l'IndyCar. Et il m'a dit qu'apparemment il n'aurait pas touché la bourse du vainqueur de l'Indy Lights. Est-ce que tu crains un peu ce risque-là ou tu es vraiment, ou c'est sûr que si tu gagnes le championnat, normalement tu n'as pas une place assurée en IndyCar?
Non, c'est assez simple, hein, la bourse. Particulièrement la nouvelle Jean-Car a gagné est d'environ $1 million et le budget pour faire rouler une voiture c'est $3 million. Sachant que si tu pars pas sur un programme sur une saison complète, la bourse tu la touches pas. Donc il faut trouver un team qui puisse mettre le budget qui manque ou il faut l'avoir de ton côté de par tes sponsors personnels. Donc c'est très compliqué, c'est peut-être gagner de la bourse, mais le problème c'est que je peux pas, si je me base sur ce qui est arrivé pour Jean-Carles, je ne fais rien, quoi, je dirais. Donc, de l'avant, j'essaie de ne pas trop surpenser et trop réfléchir pour réfléchir à ça. Et voilà, j'essaie de gagner. Le vainqueur du championnat cette année, Joseph Newgarden, est en IndyCar cette année. Voilà, il est payé pour rouler en IndyCar. Donc, je pense que l'IndyCar est sur une courbe très ascendante, disant l'arrivée du nouveau président Randy Bernard. Il y a de plus en plus de teams, de sponsors dans les séries. J'essaie d'être assez optimiste et d'espérer que si je gagne, les choses tourneront dans le bon sens pour moi. Mais d'abord, il faut gagner le Indy Lights, et c'est pas une mince affaire. Donc, voilà, j'ai déjà beaucoup de travail devant moi par rapport à ça.
Alors justement, un petit mot sur cette année 2012 qui se présente avec le team Sam Schmidt Motorsport. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette équipe et du niveau qu'il y aura en 2012? Est-ce que tu penses pouvoir faire de belles performances cette année?
J'espère pouvoir faire de belles performances, c'est le but. J'essaie pas trop de me concentrer sur le niveau ou qui seront mes adversaires. Voilà, pour le moment, tous les pilotes ne sont pas signés. Je pense que sur les 10-2 dernières minutes, il va y avoir des pilotes très expérimentés qui vont revenir dans le championnat. Mais j'essaie vraiment de pas penser à ça et me concentrer sur ce que je dois faire pour gagner ou pour être compétitif le plus vite possible. Bien sûr, j'espère faire de super résultats. Donc, plutôt que de penser aux résultats, je pense vraiment au travail que j'ai devant moi pour l'arrivée.
Et moi, je pense qu'il y a trop de confiance parce que vraiment, ce palmarès vraiment fulgurant. Je pense qu'en plus, tu n'es même pas en train de brûler les étapes, tout simplement. C'est vraiment l'échelle nécessaire. Bon, je rappelle que la Star Mazda Championship que tu as remporté, bon, c'est l'équivalent du GP3 en Europe. L'Indy Light, c'est le GP2 et l'IndyCar, la Formule 1, si on résume comme ça. Donc, c'est vrai que les échelons, tu les passes naturellement. Et on a vraiment l'impression que c'est vraiment fulgurant, vraiment.
C'est quelque
chose en plus que d'autres, que certains pilotes. Et tu peux vraiment, je pense, faire vraiment briller aux États-Unis. Si c'est ton objectif sur le long terme aussi. Mais en tout cas, vraiment, il y a moyen, je pense, de réaliser de très très belles performances.
Ben merci, j'espère aussi. Hein.
Et surtout que c'est un point commun, je trouvais aussi en préparant cette émission, c'est un point commun que nos deux invités du soir ont. Hein. C'est une carrière franchement fulgurante et ils ont brûlé les étapes, tu peux le dire comme ça. C'est vraiment, c'est peu commun comme parcours. Ça témoigne en tout cas d'une adaptabilité qui nécessite évidemment un talent, voire un don. Je pense qu'on peut même parler de don à ce niveau-là. Et en tout cas, fais-en usage avec le plus de talent. Je crois que tu fais très bien comme ça et on te souhaite évidemment beaucoup, 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 beaucoup et encore beaucoup de réussite.
Ben, je vais le faire mon mieux, merci.
Alors, je sais que Jérôme, il y avait beaucoup de questions sur le chat sur la situation sportive de notre invité. Jérôme, je te laisse la parole.
Alors, tout d'abord, première, donc, je te présente notre chat qui pose beaucoup de questions, que ce soit sur le chat ou sur Facebook. Bonjour, donc, il y a une petite question qui vient de Race Fine, qui nous demande, tout d'abord, on parlait de ton équipe, comment ça se passe directement, les relations avec ton chef, hein, Sam Schmidt, ancien pilote, comment ça se passe avec lui?
Sam Schmidt, c'est vraiment lui qui s'occupe de toute la partie, je dirais, entre guillemets, business. C'est avec lui que tu négocies tes contrats, c'est avec lui que voilà, tu négocies le prix pour faire un jour de test avant de signer le contrat, si dans mon cas j'en ai pas fait, mais voilà. C'est vraiment lui qui s'occupe de tout ce qui concerne le business. Après, une fois que tu as signé ton contrat, tu traites tout ça avec ton ingénieur et le team manager de Sam, parce qu'il est très occupé et tu essayes de solliciter le moins possible. Parce que pour des questions qui peuvent être auxquelles d'autres membres de l'équipe peuvent répondre. Donc Sam, on est en contact régulièrement, mais juste pour des updates, entre guillemets, des updates deux semaines, chaque mois, voilà, pour parler comme ça. Mais une fois que le contrat est signé, tu as plus de relations avec ton ingénieur et ton team manager.
Eh ben justement, tu parles business, donc tu me permets d'enchaîner complètement sur les deux autres questions que j'avais à nouveau posées. Tout d'abord, sur Facebook, on a Sofiane qui nous demande si au niveau d'argent, justement, est-ce que tu as un peu galéré pour financer ta carrière? Comment ça s'est passé dans les dernières années pour accéder au niveau auquel tu es aujourd'hui?
Je dirais que cette année est l'année la plus facile parce que, oui, c'est toujours assez difficile puisque, je dirais, jusqu'au sommet, soit l'IndyCar, soit la Formule 1 ou les catégories où tu as des constructeurs qui sont engagés, il faut soit que le team ou le pilote trouve l'argent pour financer le programme dans les catégories les plus petites par lesquelles tu passes pour essayer d'arriver au sommet. En général, les teams n'ont pas de sponsor, donc ce pilote va amener l'argent. Et pour moi, je viens pas d'une famille qui est extraordinairement riche, donc forcément, on a un peu galéré, mais j'ai réussi à financer ma première année en Formule Campus en 2006. Ensuite, j'ai gagné une bourse pour passer en Formule Renault. On a trouvé un complément de budget pour faire un programme très raisonnable. J'ai réussi à trouver pas mal de sponsors grâce à mon parrain Jérôme Politan, qui a couru en Formule 3000 au 24 Heures du Mans, qui maintenant a un team qui fait courir des Ferrari 458 GT3. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont aidé en 2008 pour continuer en Formule Renault. Après, avec la crise, ça a été un peu plus dur. C'est pour ça que je suis parti en Angleterre, rouler en Formule Palmer qui était beaucoup moins coûteuse. Et après, aux États-Unis, j'ai réussi à trouver, comme il y a un peu plus de primes d'arrivée et tout ça, j'ai réussi à négocier avec des teams. La première année où je suis parti en 2010, mon contrat n'était pas pour toute l'année. Par chance, je dirais, au milieu de l'année, j'étais le pilote de l'équipe qui avait eu le plus de victoires, donc le team m'a gardé. Et l'an dernier, en 2011, on a pris un assez gros risque financier, avec l'aide quand même de mes partenaires. Et j'ai réussi à gagner cette saison Indy Lights, qui est presque entièrement financée. Donc, pour cette année, ça va un peu mieux, mais tant que t'arrives pas au sommet, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Plus tes résultats, meilleurs tes résultats sont, plus c'est facile de trouver des teams qui sont susceptibles de t'aider si t'as des sponsors, tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même une belle galère, mais c'est une galère, ouais. C'est assez difficile.
Et justement, on parle des États-Unis au global. Tu es donc parti d'Europe à cause de la crise et des problèmes financiers, c'est ça, alors?
Ah, dis donc, en fait, en Europe, j'avais fait cette saison en Palmer Audi, c'est très bien passé avec 6 victoires, et j'avais fait une course en Formule 2 en fin d'année où j'avais réussi à finir sur le podium pour ma première course. Donc, la suite logique, c'était qu'il fallait que je passe dans une catégorie comme la Formule 2 ou les World Series, quelque chose comme ça, et puis en plus, on se disait, si on arrive à prendre un risque financier comme ça, qu'est-ce qu'il y a après? Donc, les États-Unis avaient plus santé pour nous, parce qu'au moins on savait que si on prenait un risque financier, on investissait de l'argent dans le programme. Si je gagnais, et bien derrière il y avait un gros prix. Le prix que j'ai gagné cette année de la part de Mazda et IndyCar représente $600,000. Donc au moins l'argent qu'on risquait, on savait que si ça marchait, il y avait quelque chose au bout. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir là-bas, mes partenaires, mon père et moi.
Mais en tout cas, rien n'est assuré. L'IndyCar, ça reste peut-être sur le moyen terme. Est-ce que, pourquoi pas, revenir en Europe, viser plus haut, serait envisageable encore ou pas?
Oui, je veux dire, j'irai vraiment courir où mes opportunités sont les meilleures. Donc pour le moment, c'est clairement aux États-Unis, avec ce prix et puis voilà, le contrat que j'ai eu avec Sam Schmidt, mais j'irai courir là où j'ai le plus de chances de vivre du sport auto. Donc s'il faut que je revienne en Europe, je reviendrai. Même si pour le moment, je m'appelle vraiment aux USA et j'adore courir là-bas.
Oui, Mathieu, l'actualité de Tristan Vautier est disponible aisément sur la toile. Vous pouvez évidemment consulter toute sa biographie sur son site internet tristanvautier.com. Vous voyez un petit drapeau, vous verrez un petit drapeau français évidemment si vous n'êtes pas parfait bilingue. Pour avoir un petit peu plus de ses nouvelles. Je sais qu'il a un blog, je ne sais pas s'il est actuellement remis à jour, mais je suppose qu'il le sera durant cette année, hein, puisque évidemment c'était la pause quelque part pendant l'hiver. Et donc voilà, n'hésite évidemment pas à aller sur sa page Facebook ou je ne sais pas si tu as un compte Twitter par exemple, Tristan.
Oui, un compte Twitter, @TristanVautier, tout attaché, et un compte Facebook. Et je dirais que Facebook et Twitter, c'est les deux moyens les plus directs pour
avoir de tes nouvelles. D'accord.
Ils sont mis à jour plus régulièrement que mon site, maintenant, qui est en train d'être refait pour 2012.
D'accord. Donc toute l'actualité, c'est sur Tristan Vautier, sur Facebook et sur Twitter, avec l'hashtag juste devant. Je sais pas si. Moi, j'y connais rien. J'ai jamais été sur Twitter, donc je me suis lancé dans un. Non, je sais même pas comment ça fonctionne. Donc voilà. Mais moi, je suis sur le réseau social.
Hashtag comme ça, inopiné.
Ouais. Les noms,
ouais. Non, hashtag, c'est quand on suit le petit carré, là, oui, je vois, pardon. Autant pour moi, autant pour moi.
Pour aider à faire des tétés.
Oui, j'irai peut-être un jour sur Twitter. En tout cas, moi, je ne suis pas l'oiseau, je suis sur Facebook et à la limite, l'actualité disponible de Tristan Vautier est disponible sur Facebook, donc c'est très bien comme ça. Et sur Twitter.
En tout cas, le lien vers le site internet est sur notre timeline Facebook.
Oh, Jérôme.
Twitter, parce qu'aux États-Unis, il n'y a que ça qui.
Ouais, c'est vrai.
C'est le nouveau truc.
D'ailleurs, c'est amusant.
Un nouveau follower à l'instant, Tristan.
Alors, en deuxième.
Et tu sais quoi, Tristan? Et tu sais quoi, Tristan? Demain, tu en auras un troisième. Je vais ouvrir un compte juste pour te suivre.
Oh là là.
Non, j'ouvre mon compte Twitter. Je l'annonce demain, 2 mars. Vendredi 2 mars, j'ouvrirai mon compte.
J'ai gagné ma journée. Voilà.
Alors, revenons au sportif.
Oui. Voilà. Moi, Alex, j'ai une question sur sa saison de Indy Light 2012. Quel circuit tu appréhendes le plus? Lequel t'es impatient d'en découdre? Tu es impatient d'en découdre avec.
Je dirais qu'il n'y a pas particulièrement d'appréhension. Je pense que les circuits qui vont être assez difficiles à apprendre, c'est notamment les ovales très rapides comme Indianapolis et Fontana. Tu dois être capable de conduire une voiture qui est très légère du train arrière, puisque comme tu as fond tout le long du tour, le but c'est de prendre le volant le moins possible pour regagner de la vitesse. Donc je pense que ça va être assez nouveau pour moi, même si j'ai eu un avant-goût en Star Mazda, mais les vitesses étaient bien moins élevées. Donc, mais je suis vraiment très impatient de rouler à Indy. Ça a l'air génial. Et Long Beach aussi, je ne connais pas, Grand Prix de Long Beach, ça a l'air vraiment super. Donc je pense que c'est les deux qui sont dans mon esprit pour le moment.
En parlant de circuit, est-ce que l'accident dramatique de Dan Weldon, est-ce qu'il t'a refroidi? Quel a été ton sentiment en apprenant le décès du pilote américain, enfin britannique, pardon?
Britannique.
Ouais. Comment tu l'as senti? Est-ce que ça t'a pas un peu effrayé pour parcourir après les ovales?
Ça m'a pas effrayé ou refroidi, ça m'a beaucoup affecté, surtout que en plus j'étais à Vegas le jour où ça s'est passé dans les tribunes, donc j'avais rencontré Dan durant l'année, c'était vraiment un mec super, donc c'est clair que c'était dur, mais après, ça, je veux dire, on sait que surtout la course sur les ovales, c'est très dangereux. Il y a eu beaucoup d'accidents les années d'avant où ça aurait pu se finir comme ça, donc voilà, ça m'a beaucoup affecté. Après, ça m'a pas du tout refroidi ou effrayé par rapport à ce que je dois faire dans le futur, parce que je connais les risques depuis le début, et surtout depuis que j'ai commencé à rouler sur les ovales, j'ai tout de suite compris que le danger était très élevé, mais voilà, c'est la course et on est là,
Et je trouve pas la mentalité américaine un peu farfelue, comme la prime justement pour Dan Weldon qui s'y gagnait la course en partant dernier à Las Vegas sur un circuit immensément petit, hein, jolie métaphore, mais en tout cas, est-ce que c'est pas dangereux? Enfin, est-ce que la mentalité américaine n'est pas un peu bizarre de la nôtre? Avant, on est français, voilà. Mais vraiment, faire des choses comme ça, je trouve que c'est pas très intelligent.
C'est discutable. Je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles beaucoup de personnes différentes ont différents points de vue. Le prix qu'ils ont fait était clairement pour booster le marketing, parce que surtout en IndyCar, où je dirais le financement vient principalement d'entreprises privées, booster le marketing pour générer de plus en plus de fans est hyper important. Donc, quelque part, ils essayent de multiplier les paris comme ça. C'est vrai que beaucoup de gens disent qu'on devrait arrêter de rouler sur ce genre d'oval. D'ailleurs, ils ne retourneront pas à Vegas et arrêter le genre de paris comme ça. Je pense que chacun a son point de vue. Je suis d'accord que ça augmente les risques et je suis d'accord que la course sur les ovales est très dangereuse. Après vraiment, chacun a son point de vue là-dessus. C'est un sujet un peu délicat, je pense.
Et précisons juste, Mathieu, que Dan Weldon, c'était quand même, il faut juste préciser ça aussi pour recontextualiser la chose. Dan Weldon n'était pas un pilote commun. C'était un très, très bon pilote qui avait déjà remporté des 500 miles, etc. Donc,
2005 et 2010.
Deux fois, je crois. 2005-2010. Ouais. Donc effectivement, bien sûr, le destin était tragique, mais quelque part, voilà, je pense que si ça avait été un autre pilote, peut-être que les paris n'auraient pas été aussi audacieux. Enfin bon, de toute façon, c'est un destin tragique et on ne pourra pas refaire l'histoire, malheureusement.
Voilà.
Une question sur le chat, Jérôme.
Jérôme. Ben, on parlait des 500 miles à l'instant, justement.
Et juste avant, on rappelle que c'était officiel aujourd'hui, Rubens Barrichello roulera en IndyCar. Et aux 500 miles, on va retrouver Jean Alesi avec Rubens Barrichello, notamment, deux anciens pilotes. Deux anciens pilotes.
Exactement.
Non.
Et c'est d'ailleurs, excuse-moi Mathieu, et c'est d'ailleurs une question qui est posée sur le chat. Qu'est-ce qu'il pense de. Enfin, je sais pas si j'ai paraphrasé.
Ouais, c'est 96, que penses-tu de Rubens Barrichello?
Je pense que c'est super. J'étais super content quand j'ai vu les news. J'étais super content quand j'ai vu son test. Je pense que ça peut que booster le sport parce que voilà, c'est un pilote de renom. Il a une super carrière en F1. Ça va non seulement booster le championnat aux États-Unis, mais en plus, je pense que ça peut en quelque sorte renforcer encore un peu l'intérêt de des gens en Europe pour l'IndyCar, puisque Rubens vient d'Europe, entre guillemets, il s'élève beaucoup autour de la planète, donc non, hyper vraiment content qu'il y ait Rubens en IndyCar, et je pense que ça prouve que le championnat est sur une pente ascendante, donc super, que du positif par rapport à ça.
Et il ne faut pas oublier non plus que Sébastien Bourdais va disputer toute une saison aussi en IndyCar oui. Avec le Dragon, je crois.
Oui. Ouais. Non, c'est bien de que Sébastien soit de retour. Là. Après que Peugeot soit retiré, c'est vraiment bien pour lui. Et il y a Simon Pagenaud aussi qui roule chez Sam Schmitt, donc on est indirectement coéquipier. Donc c'est non, je pense que c'est vraiment, ça va être une belle année en IndyCar avec la nouvelle voiture, beaucoup de pilotes déjà confirmés pour toute la saison et de plus en plus de sponsors et de nouveaux teams dans le championnat, donc c'est vraiment très bien, surtout avec l'arrivée des constructeurs.
Jérôme, il a une question, je crois.
Ouais. Tout à fait. Ben, nos auditeurs ont décidé de te poser quelques dilemmes. Tout d'abord, il y a encore Espen qui te demande, tu préfères, alors attention, ouais. Donc, on en parlait justement, gagner les 500 miles d'Indianapolis ou un Grand Prix de Formule 1
c'est une question difficile, mais 500 miles, je dirais pas.
Ça, et 500 miles joue un Grand Prix de Monaco.
Ah, j'aime pas ça.
Joker interdit.
Et 500 miles.
Et Michel posait ovale ou circuit.
Circuit. C'est extendu circuit. Non, je vais faire la petite question avocat du diable parce que j'aime bien de temps en temps. Voilà, c'est la question qui fâche. Que penses-tu du fait que, justement, on parlait de Barrichello, il y a Montoya, tu as évoqué Bourdais. Que penses-tu?
Non, Montoya, c'est en NASCAR.
Non, justement, j'avais pas.
Oui, mais il a fait l'IndyCar.
Oui, c'est ça, il était en IndyCar.
Non, mais d'ailleurs, il a mis le show à Daytona 500. Hein.
Ouais, on y reviendra tout à l'heure.
Oui, mais justement, alors, la question qui fâche, que penses-tu du fait que les Bourdais, les Montoya, les Barrichello quittent les circuits entre guillemets européens sur des échecs et puissent retrouver un petit peu une retraite dorée aux États-Unis. Alors c'est volontiers provocatrice cette question-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que finalement les compétitions américaines ne seraient qu'une roue de secours aux compétitions européennes? Ah oui.
Non, mais c'est vrai parce que c'est intéressant parce que beaucoup de gens en parlent comme ça. Je pense déjà que bon le fait que certains pilotes ont des difficultés en Europe, comme quand ils arrivent aux États-Unis, il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte. Sébastien Bourdais, je pense que par exemple, ça s'est pas aussi bien passé en F1 pour lui, parce qu'il y avait un changement d'environnement. Il passe d'un statut où il est numéro 1 dans son team, tout le monde est autour de lui, et il arrive dans un team où au final, le team peut-être ne donne pas assez d'importance et n'est pas assez pour développer l'équipe autour de lui. Je pense que c'est assez difficile. C'est vraiment une question difficile.
C'est une question vache. Mais moi, je ne pense pas ça, mais j'ai posé cette question parce que je sais que certaines personnes se la posent et c'est un peu le rôle aussi de temps en temps de faire écho à ces gens.
La différence, c'est peut-être qu'on est d'un point de vue français, enfin européen. Peut-être que les Américains, eux, ont vraiment des véritables stars aux États-Unis.
Ah, mais qui ne viennent pas ici.
Mais qui ne viennent pas en F1 parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce que ils préfèrent vraiment rester aux États-Unis. C'est certainement un environnement différent, une atmosphère différente, et où les enjeux sont peut-être différents aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas le même point de vue que la Formule 1. Parce que la F1, c'est vraiment quelque chose d'à part par rapport à l'IndyCar. Je pense que c'est vraiment différent. C'est que l'IndyCar, c'est sincèrement un environnement complètement différent, plus proche, plus américain, plus chômage en tout cas, que la F1. Hein.
Tout à fait. Et je pense que la transition Europe-Amérique est plus facile à faire que Amérique-Europe. Tout simplement parce que je pense que quelque part, les teams américains ont énormément de respect et portent un super accueil aux pilotes qui arrivent d'Europe, alors qu'en Europe, on est plus anonyme par rapport aux pilotes qui viennent des USA. Et je pense aussi que quelque chose qui fait que beaucoup de pilotes qui viennent d'Europe réussissent aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, sachant qu'il y a en IndyCar, bon, à part du côté des moteurs, tout le monde a le même châssis, tout ça. Un bon pilote qui vient d'Europe, il arrive toujours plus ou moins à développer un team autour de lui, à développer une voiture autour de lui. Quand un pilote qui vient d'Amérique ou un pilote comme Sébastien Bourdais, s'il atterrit dans la mauvaise équipe et il a une voiture qui ne lui convient pas, qui a été dessinée comme ça au début d'année et qui de toute façon restera la même toute l'année, bien qu'on puisse ajuster les setups dans une manière très vite. Je pense que c'est beaucoup plus dur par rapport à ça.
Et ils sont grillés pour de bon, ça c'est vrai que c'est peut-être aussi ce sentiment-là, Tristan. En Europe, en Formule 1, on est très vite grillé, beaucoup plus vite grillé que notamment en Indy.
Voilà. Mais c'était une question intéressante.
Et justement, au niveau de la monoplace, quel est le niveau technique des voitures aux États-Unis, des monoplaces américaines par rapport à ce qu'on connaît nous, hein, en termes de réglages et de développement, comment ça se passe sur une saison?
Je dirais que le niveau de développement des voitures est moins élevé, pour être très honnête. L'IndyCar, c'est simple, il n'y a qu'un constructeur de châssis qui est Dallara. Même s'il va y avoir des kits aérodynamiques en 2013 de différents constructeurs. Et je dirais que le principal développement, c'est sur le setup pur de la voiture, plus que sur créer des nouvelles pièces et vraiment développer des composants pour la voiture. Je veux dire, une Indy Light, c'est beaucoup moins développé que le GT2. Je pense que les Américains sont beaucoup plus concentrés sur réduire les coûts et vraiment sur... les Américains, pour eux, ils ne font pas la différence entre une voiture de 2007 ou de 2010. Ils ne passent pas. Donc, ils portent moins d'importance là-dessus. Globalement, technique des voitures est moins
élevé. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on met plus en avant le côté chaud, le côté approche, enfin, avec le public, tout ça par rapport à la F1 qui est vraiment très privée, très égoïste.
Voilà, beaucoup plus de partage avec les fans. Et pour en revenir au niveau technique, c'est pas parce que le travail de développement des voitures est moins élevé que quelque part ce qu'on demande aux pilotes est moins complexe parce qu'il y a quand même énormément de travail de développement sur les setups des voitures. Donc du côté du pilote, je pense pas que ça change énormément. Par contre, les teams, des gens qui ont...
J'entends pas très bien.
Ouais, on va demander à nos amis de couper leur micro pendant que Tristan s'exprime. Parce que Tristan, tu es passé sous un pont là, Tristan. Que se passe-t-il?
Ah bon? D'accord. Vous m'entendez bien?
Ah non, mais c'est bien mieux, voilà.
D'accord. Donc je disais, oui, qu'il y a beaucoup plus de partage avec les fans aux États-Unis.
Voilà. Et ça s'est ressenti. En même temps, Hamilton, quand il a testé le NASCAR, c'était vraiment un monde différent comme Coulthard. Alors que lors de leur déclaration, tout ça, c'est vrai que c'est un monde différent, on ne connaît pas du tout. Et heureusement que tu es là pour nous en parler, parce que vraiment, c'est l'inconnu pour nous, quoi.
Ah, c'est super. J'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion de venir sur une course, parce que je pense que ça va voir, surtout les 500 matchs du gars.
On va essayer de mettre de l'argent de côté.
bientôt, peut-être que je pourrai payer les billets, j'espère. Hein.
Ne dis pas ça à Mathieu, tu n'arriveras plus à t'en décroter.
Oh là, non, ce serait vraiment énorme. Hein, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et c'est vrai que faire dans la même année le Grand Prix d'Austin au Texas, de New York et un Grand Prix d'IndyCar avec Tristan, voilà, ce serait le moment américain, l'année américaine, ce serait énorme. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on va essayer de commencer pour l'Europe.
Ouais.
Par exemple, moi, Barcelone ce week-end après Monaco, en mai prochain. Hein, on va commencer par ça, puis après les États-Unis, c'est un monde différent et on ira. Mais c'est obligé, c'est vraiment obligé d'y aller au moins une fois dans sa vie pour vivre et voir comment ça se passe, parce que c'est vraiment quelque chose.
Et c'est d'ailleurs, et Tristan, c'est d'ailleurs ce dont on va, je suppose, parler dans les prochaines minutes. On va sortir un peu des sports mécaniques pour parler un petit peu de leur sujet, la vie.
Ce que je propose pour finir l'émission, il ne reste pas beaucoup de temps.
Ouais.
On va faire ce que tu nous dis, Chris. Et si tu veux, Tristan, tu pourras revenir une prochaine fois pour revenir un peu sur toi. Et bah forcément, le début de la saison. Mais on va terminer l'émission sur un peu un moment détente, parce que c'est la fin, Chris.
Bah oui, c'est la fin de l'émission. L'occasion de dire qu'on se retrouvera jeudi prochain, je crois, de savoir que nous serons le 8 mars, le 8 oui. mars, et pour une émission. Alors là, je peux pas vous dire 100%, parce que 100% c'est pas possible, mais on va dire 99% entièrement consacré à la Formule 1. Soyez vraiment.
C'est 1% de tennis avec voilà. Chris.
Il y aura 1% d'actualité évidemment diverses, mais la semaine prochaine, donc jeudi prochain, on va se rattraper parce qu'on n'a pas parlé de Formule 1 aujourd'hui. Bah, il n'y a pas que la Formule 1, mais enfin, on va se rattraper puisque jeudi prochain, je suppose qu'il y aura 10 à 15 minutes d'actualité sportive et des sports mécaniques en bref. Puis on va rentrer dans la Formule 1 avec les essais de Jerez et Et Barcelone, ah oui. Mais c'est parce que je voulais faire. Hein. J'ai entendu Mathieu dire très avec beaucoup de volupté et je voulais me relancer là-dedans. Mais actuellement, nous sommes tout à fait à Barcelone. Voilà, et il y a eu des résultats intéressants.
Jeudi prochain, bilan total des essais Formule 1.
Dont ceux de Jerez.
Plus le GP2. Voilà. Parce qu'il y a eu à Jerez. Et il y aura Barcelone la semaine prochaine aussi,
encore
des essais GP2.
Encore.
Donc, la semaine prochaine, spécial F1 GP2. Après, on aura la première partie du guide de la saison 2012 de la Formule 1. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais on garde tout ça au chaud. Donc ce soir, on va terminer l'émission avec l'invité, on va faire honneur à lui, Tristan Vautier. Donc Chris, je te laisse commencer. De quoi veux-tu lui parler?
Ah ben justement, non, mais de ta vie aux États-Unis. Hein,
Tu as fait du tennis la nuit.
Oui, non. Est-ce que tu étais là tout à l'heure? Est-ce que tu as écouté tout à l'heure? Parce qu'il peut-être qu'il ne peut pas comprendre à quoi on fait allusion. Non mais
trois blagues sur le tennis quand même.
Ah oui, donc tu étais tout à fait aux avant-postes tout à l'heure.
Chris a honte là.
Oui, non mais c'est ma fête ce soir. Et Tristan, tu vis donc une large partie de tes années, de ton année en tout cas aux États-Unis. Oui. On connaît évidemment les différences culturelles entre ces deux pays-là. Est-ce que tu considères la patrie des États-Unis un peu comme ta deuxième maison? Je veux dire, comment vis-tu aux États-Unis? Quels sont tes rapports humains et psychologiques avec...
Marrant parce qu'après 2 ans aux États-Unis, et maintenant que je rentre en France, j'ai presque plus l'impression d'être chez moi. Et j'adore vivre là-bas, j'aime vraiment les gens là-bas, ils sont très, très avenants, très sympas, très sympathiques. Et
précisons que tu ne vis pas au Texas. Non, petite boutade.
Non,
je plaisantais.
Non, je vis en Floride, à Saint-Pétersbourg.
C'est pas mal non plus, remarquez.
Et à Indianapolis, je vais vivre à Indianapolis en mai, en juin, quand on a beaucoup de courses dans le nord. Mais non, j'adore vivre là-bas, à part la nourriture.
Et quel est ton état préféré?
C'est dur. La Californie, c'est moins la brume le matin.
La Californie, on va pas la faire ce soir.
Mais question plus dans les préférés, c'était question un peu plus sport automobile. Quelle est question qui revient souvent avec nos invités? Quel est ton circuit préféré? Reste fan sur le chat.
En Europe.
En Europe.
Bah oui, parce que tout à l'heure on t'avait posé la question aux États-Unis à peu près, je crois.
Ça peut être Suzuka. Hein.
Ouais, en Europe, un circuit de Formule 1 quoi. Parce qu'on t'avait posé la question sur les États-Unis, je crois, tout à l'heure. Donc.
On m'avait posé la question de lequel je suis plus impatient
d'aller, oui.
Voilà.
Donc on va changer, on va dire, des circuits de Formule 1, évidemment, Tristan.
Mon circuit préféré, je dirais, en Europe, c'était Spa. Hein.
Voilà. On a vraiment eu les meilleurs invités depuis le début de l'émission, moi je...
Et celui que tu aimes le moins parmi les Indycars?
Celui que j'aime le moins, c'est dur parce que j'aime vraiment beaucoup de circuits aux États-Unis, ils sont tous différents. Cette année en Star Mazda, celui que j'aimais le moins, parce que... Je dirais que c'était remémorer le calendrier en fait là. c'était le petit ovale d'Indianapolis sur lequel on a roulé. Lucas Oil Raceway. C'est pas très connu assez.
Ah, Lucas Oil.
C'est l'ovale sur lequel on roulait en ouverture le samedi soir avant le 500 miles d'Indianapolis. Qui était petit quoi, on va dire.
Je vois sur Wikipédia. un petit plan. Parce qu'il y a un petit plan du circuit. Et je...
Même sur le site de Tristan, hein, il y a un plan.
Ah. Est-ce que virage à gauche super rapide?
Alors, alors, Tristan, il y a un petit délire sur le chat. Alors, est-ce que c'est sérieux ou pas? Est-ce que je lui demande là ou
Bah vas-y maintenant, tu l'as
pas encore. Bah, je sais pas, non, mais on nous parle de la type E.
Comment va la type E?
La type E?
La type E, voilà. Est-ce que c'est une blague qu'on nous fait ou est-ce que ça te dit quelque chose ou c'est...
Mon père nous a quoi un petit peu de collection.
Ah voilà. Ah bah voilà. Oui, c'est donc, ça. C'est pas une blague.
Tu le connais, Bruno Gagliardi. Voilà. Voilà, c'est ça. Et nous, bah, justement, il faisait un petit coucou à ton père. Qui est ton père, donc je peux le rappeler parce que ça va me concerner bientôt, qui est le directeur du circuit du Laquais à Champier en Rhône-Alpes. Et Tristan, c'est une bonne chose, hein, tu viens de Saint-Martin-d'Hères en Isère. Je suis isérois aussi. Mm-hmm. Moi, Mathieu, l'animateur.
Saint-André
Legaz. Voilà, on vient d'Isère tous les deux, ça fait plaisir aussi. Et pour l'info, c'est que je devrais bientôt, dès que j'aurai le permis de conduire, pouvoir faire un stage de conduite sur le circuit du Laquais. Donc, je suis impatient d'y être quand même.
Tu dois réserver, ok?
Ouais. Ouais, voilà. En fait, c'est déjà fait. Je l'ai reçu il y a un an et demi pour mon anniversaire, mais la date a été dépassée et je vais devoir les recontacter pour pouvoir espérer faire ce stage quand même.
C'est sympa que tu nous racontes ta vie, Mathieu, comme ça. Je trouve ça charmant.
Attends. Tu veux confier?
Voilà. Nous sommes là, Mathieu, nous sommes là pour t'aider. Et juste pour préciser avec la type E.
Raconte-nous ta première fois où t'as pleuré.
Oui, oui. Et Bruno qui nous demande que tu passes le bonjour à ton papa. Donc, il nous le confirme lui-même. Et oui. Comme
ça
Mathieu.
Voilà.
Donc, le circuit du Laquais, c'est vraiment. Là, on a. J'ai vu ça sur le site du circuit. J'ai vu Vautier, je me suis dit, bon, c'est un rapport avec le. Pourquoi pas le fils? Bah, effectivement, c'est le cas. Donc, c'est plutôt pas mal, justement. Est-ce que ça t'a aidé, à rouler dessus? Est-ce que tu as déjà roulé dessus, étant petit, peut-être?
Ah, bah, c'est clairement ce qui m'a fait tomber dedans, je dirais. mon père m'a fait conduire, il me faisait conduire sur ses genoux quand le circuit n'était pas encore fini, et il m'a fait conduire un kart avant que le circuit lui-même soit fini. Et à partir de là, je crois que Donc oui, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à me préparer surtout pour la voiture, me préparer à la Formule Campus, donc non, super avantage, je dirais.
Ah bah oui, c'est comme Jean-Éric Vergne hein, à Paris.
Oui, un donc, peu, ouais.
C'est souvent un avantage, ouais. Alors messieurs, est-ce qu'il y a encore des questions sur le chat ou vous-même?
Bah moi j'ai une petite demande, je sais pas si... Oui, tu étais là tout à l'heure Tristan, quand j'ai fait la même demande à Olivier Lombard qui s'est prêté gentiment au jeu. Est-ce que tu pourrais nous dire une phrase voilà. Alors, je te demande ça. Si tu n'as pas de phrase en tête, j'ai ma petite phrase.
Je peux le faire à l'anglaise.
Ou alors, tu le fais à l'anglaise et tu dis... je suppose que je vais te rappeler évidemment très rapidement le principe, puis pour tous les auditeurs qui n'étaient pas là. Donc, à chaque fois que nous recevons, je précise pour les auditeurs, à chaque fois que nous recevons un invité, eh bien, il sort une phrase. Et cette phrase-là, c'est un peu son porte-bonheur, puisqu'à chaque fois qu'il remporte une victoire donc au cours de l'année... À chaque émission et à chaque victoire, donc, on ressortira cette phrase-là sous forme de jingle, un très court jingle. Voilà. Est-ce que tu as une phrase en tête qui commence par ici Tristan Vautier?
C'était quoi ta phrase?
Alors, c'était la même qu'avec Olivier Lombard. Alors, ici Tristan Vautier, j'ai gagné parce que j'ai de qui tenir.
D'accord.
Ou alors tu changes, c'est comme tu veux.
Moi, je vais faire la même. Hein.
Allez.
Ok. Ici Tristan Vautier, j'ai gagné parce que j'ai de qui tenir.
Merci beaucoup, Tristan. Et on souhaite évidemment ressortir le plus souvent ce petit jingle.
Et l'autre dédicace maintenant.
Et maintenant, tu nous chantes l'hymne américain.
Non, et l'autre dédicace, c'est pour le patron de la radio qui a une petite tradition, alors là, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Et effectivement, est-ce que tu pourrais nous dire ici Tristan Vautier, vous écoutez RTS? C'est ça la phrase ou c'est pas ça, Mathieu? C'est la phrase exacte.
Ici Tristan Vautier, bienvenue sur RTS.
Bienvenue, c'est pas pareil.
Pas de problème, allez c'est parti. Ici Tristan Vautier, bienvenue sur RTS.
C'est magnifique, merci beaucoup. Voilà, on la ressortira aussi dans les prochaines fois. Alors pour terminer l'émission, est-ce qu'il y a 2-3 mots à rajouter? Puis bon, Tristan, on n'aura pas pu en parler beaucoup, mais on aura le temps de revenir sur ta carrière, sur d'autres infos, sur ton actualité riche qui t'attend bientôt. Dans les prochaines émissions, hein, tu pourras être un peu notre envoyé spécial aux États-Unis pour nous faire vivre et partager la vie outre-Atlantique, parce que vraiment, ça doit être assez sympa.
Génial, ouais.
Donc, messieurs, on va devoir se quitter.
Oui. Et je précise à Bruno qui n'est pas fan de ma phrase que j'ai pensé à lui, j'ai laissé le choix à l'invité, mais apparemment les invités aiment mes phrases, donc moi je suis pour une totale démocratie, parce que Bruno n'est pas fan de ma phrase, donc en tout cas peu importe qu'il soit fan ou pas, si on la ressort souvent cette année-ci, ce sera vraiment évidemment excellent et extraordinaire. Ah non, le service après-vente est terminé. En tout cas, t'étais excellent, Tristan. Moi, je vais conclure l'émission en disant que il y a des prochains rendez-vous sur RTS, puisque vous retrouverez demain le Flashport. Il y aura le Handball qui aura lieu lundi soir, évidemment, l'actualité du Handball. Avec, vous le savez, tous les lundis, on reçoit des invités exceptionnels. Les joueurs de l'équipe de France de Handball succèdent tous les lundis. Je ne sais pas s'il y aura encore un expert lundi soir. En tout cas, on reviendra évidemment sur le classico du handball français Montpellier qui a battu d'un point Chambéry. Apparemment, c'était un très très bon match, si j'en crois mes amis et mes camarades du Handé. Et puis, pour le prochain rendez-vous Motor Show, ce sera jeudi prochain, donc je vous le répète, ce sera le jeudi 8 mars, et on aura une émission intégralement consacrée à la Formule 1, avec évidemment Mathieu, l'un des
bons. Et 1% de tennis.
Et 1%, un petit pourcentage de hors-sujet, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Donc, il y aura, dans ce pourcentage-là, il y aura les blagues ratées, il y aura le tennis, la pompe à vélo, toutes les grandes classiques.
Il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires, ça. Je suis malheureux pour elle.
Non, la pompe à vélo, c'est un consultant de l'émission du Motor Show. Hein. On ne peut pas la virer, je suis désolé.
Donc voilà, donc demain vous retrouverez le Flashport à 20h30 avec Xavier Luzari, et merci chers amis auditeurs d'avoir participé. Il n'y a pas eu de sondage aujourd'hui, mais enfin, comme on avait deux invités, je me suis dit on ne va pas ajouter de la quantité à la matière. Donc merci chers amis auditeurs, merci évidemment à mes camarades.
Tiens, si tu nous parles de la page Facebook, mon cher Chris, sachez que désormais elle est toute belle, toute neuve, avec, on va dire, aux couleurs du nouveau Facebook, avec la timeline, et je vais m'atteler très prochainement, avec l'aide aussi des auditeurs, si vous avez des idées, à en faire une belle page Facebook qui répertoria tous les grands moments du Motor Show. Donc pour cela, je vais essayer de faire de mon maximum, ça va demander un peu de travail, mais et vous pouvez désormais, vous pouvez aussi, hein, Mathieu, je crois que tu l'as déjà notifié sur la page Facebook, envoyer des messages sur notre page. Donc si vous avez des suggestions, vous avez des idées pour les prochaines émissions, des questions à nous poser,
et oui,
n'hésitez pas, cette boîte désormais de messages, vous permettra de prendre contact avec nous, avec Mathieu, moi, Chris et tous les autres administrateurs de la page Facebook de l'émission, pour prendre contact avec nous et nous poser vos questions.
Je salue dans l'ordre notre ami Chris, qui était avec nous au stage à la technique, et bien sûr à la bonne humeur hebdomadaire. Chris, bonsoir à toi, bonne nuit, bon week-end, et à jeudi prochain, plus en forme que jamais.
Rendez-vous pris.
Et maintenant, je salue, comme il se doit, mon ami Jérôme, l'hôtelier grand consultant de luxe du Motors The Show. Jérôme, je te souhaite à toi aussi une bonne soirée, un bon week-end, et bien sûr à jeudi prochain pour une grosse partie F1.
Eh bien, je te salue Mathieu Vuitton, mon ami. J'espère que tu auras une petite pensée pour moi demain, car tu vas vivre enfin ton rêve. Et je te souhaite évidemment d'avoir les yeux grands et écarquillés, d'avoir des étoiles dans les yeux. Passe un grand week-end. Et j'espère que, en voyant Vitaly Petrov, tu penseras à ça. Bon week-end à tous.
Oui, exactement. Et à jeudi. Alors si j'ai un passe paddock, le rêve sera encore plus grand, mais ça peut se faire, donc on se tiendra au courant, les photos viendront, je vais en faire le maximum que je peux. Je vais vraiment passer un très bon week-end, mais je penserai à vous, chers auditeurs et chers consultants qui seraient chez vous en train de travailler ou je ne sais quoi, donc je vais en profiter pour vous. Je salue Alex, notre ami Life en continu, notre ami Endurance, merci à toi Alex. Et à très bientôt sur le Motors Show. Bonne soirée, Alex.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli dans cette magnifique émission. Deux grands invités. Ouais. Et puis, j'espère que la page Facebook, la F1 continue, va passer le cap des 1200 fans avant la fin des essais hivernaux à Barcelone. Et donc, je vous invite.